Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre le message Apocalypse, chapitre 4, partie 3, prêché en 1961, le 8 janvier, par notre précieux frère et prophète William Marion Branham. Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse aussi. Et bonjour, classe biblique. Comment allez-vous ce matin? Mais j'espère. Amen. Nous avons en quelque sorte, c'était un préavis de dernière minute de vous dire que nous serions ici ce matin parce que je n'avais pas encore établi mon itinéraire du moment de mon départ. Et maintenant que c'est fait pour les 6 prochains mois, bon, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que nous ayons la réunion ce matin car il va me falloir un certain temps avant que je revienne. Pour autant que je sache, peut-être cet automne. Et nous allons partir cette semaine pour Beaumont, au Texas, où nous commencerons la semaine prochaine et nous aurons 8 ou 10 jours de réunion avec l'association des indépendants et différentes églises. En fait, c'est parrainé par les églises du nom de Jésus, Jesus Name, là-bas à Beaumont, Texas, où nous avons eu la glorieuse réunion il y a quelque temps, juste après que cette photo ait été prise. Et je sais qu'ils ont un autocar là-bas avec, je crois, 27 autocars ou un train de 27 autocars venant à la réunion de Beaumont. C'est là que le maire de la ville a organisé le défilé et a parcouru les rues avec tous les autres. Nous avons eu un temps glorieux à Beaumont et nous y retournons la semaine prochaine. Et puis, nous aurions aimé aller à San Antonio, mais nous n'aurons pas assez de temps, peut-être, au retour. Et nous partons de là pour Phoenix, Los Angeles, jusqu'à Long Beach. Et puis, nous reviendrons, si le Seigneur le veut, reviendrons par la côte Est, remonterons en Virginie et en Caroline du Sud. Ensuite, nous allons revenir à Bloomington, Illinois, et de là à l'école Lane Tech High School, la dernière semaine d'avril, chez les hommes d'affaires chrétiens, et puis de part de là pour me rendre dans le nord de la Colombie-Britannique vers l'Alaska et y rester jusqu'en juin. Et là, nous espérons passer un moment glorieux. Je prie donc pour que l'enquête sous laquelle j'étais depuis un bon moment par le ministère du Revenu concernant l'Église ici sera terminée à ce moment-là. Ensuite, je pourrais alors, si c'est le cas, aller outre-mer dès juin, ce qui serait parfait pour aller en Afrique en juin, juillet et août en Afrique. Donc, j'ai vraiment besoin de vos prières. Puis nous attendons la venue du Seigneur, toutes ces choses sont si c'est la volonté du Seigneur, voyez? Nous ne savons pas, ce ne sont pas exactement des conduites. Nous avons juste mis toutes les invitations ensemble et prié à ce sujet et demandé au Seigneur où devrions-nous aller. Et il me semblait alors que je ne devais pas tout décider seul, de laisser les autres y réfléchir et prier là-dessus. Et puis il semblait que nous nous sentions tous conduits d'aller vers l'ouest, le sud et l'ouest à ce moment-ci. Comme on avait des invitations de partout, alors nous avons tout de suite commencé et la première qui m'est venu à cœur était soit Beaumont ou San Antonio. Nous avons vérifié, nous avions des invitations pour les deux endroits. Et nous avons appelé une à Beaumont et comme ils avaient 42 églises qui participaient, des Pentecôtistes unis et ainsi de suite, nous avons pensé qu'avec un grand auditorium, il vaudrait mieux leur donner environ 10 jours plutôt que 5 à chaque endroit. Je pense que si vous le centralisez comme ça, c'est mieux. Ensuite, il y a beaucoup de gens dans le besoin à Beaumont et dans cette partie pétrolière du Texas. Et nous nous attendons donc à passer un moment glorieux à Beaumont. Et bon, nous n'essayons jamais d'aller où il y a de grands centres et de grands endroits, mais nous essayons d'aller où le Seigneur nous conduit, peu importe combien petit ou grand, ou en autant que le Seigneur conduise. Maintenant, à tout moment, il pourrait nous donner un appel macédonien et nous quitterions le champ de mission à tout moment pour ce qu'il nous appelle à faire n'importe où. Nous avons bien aimé ce temps de communion autour de la parole de Dieu avec vous, mes braves gens. J'ai confiance que vous serez fidèles maintenant et que vous viendrez à l'Église et obéirez aux enseignements de la Bible de notre brave frère ici, frère Neville, que je recommande grandement en tant que serviteur du Seigneur Dieu, et continuez à avancer de plus en plus profondément avec Dieu. Et je suis si heureux de ça. Et la petite Église, je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus à grandir dans la grâce de Dieu et à demeurer ferme, à regarder constamment vers le calvaire et à ôter de votre cœur et de votre âme toute racine d'amertume afin que Dieu puisse vous utiliser à tout moment. Si jamais vous avez à cœur faire quelque chose ou avez une révélation ou quelque chose vous arrive étrangement, un avertissement ou quelque chose, faites attention là. Satan est aussi sournois et rusé qu'il peut l'être. Voyez, comparez-le avec la parole de Dieu et consultez votre pasteur. Voyez, et vous voyez des dons et tout qui s'infiltrent dans l'Église et ces dons qui s'opèrent avant de les laisser opérer et ces choses. Premièrement, sentez-le presser sur votre cœur, car l'ennemi est vraiment rusé. Voyez, et c'est exactement ce qui démolit les Églises à chaque fois. C'est un don véritable, mal utilisé, voyez. Quelque chose que Dieu essaie de faire et qui est mal utilisé, ça va juste non seulement vous blesser, mais démolir l'Église entière. Envoyez, consultez-le, validez-le maintes et maintes fois dans la Bible, puis éprouvez-le et voyez si c'est Dieu ou non. Continuez de le tester, l'éprouver pour voir s'il concorde parfaitement et s'il est parfaitement lié avec la parole. Alors vous n'aurez pas à vous en faire, voyez. Tant que la parole a dit que ce serait ici et agirait de certaine façon, restez avec cela. Ne vous écartez jamais, quoi que quiconque fasse ou combien ça semble réel. Si cela ne se reflète pas dans les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, laissez-le de côté. Ne prenez pas de risques. Nous sommes dans les derniers jours où Satan est aussi séduisant que possible. Pardonnez-moi si j'essaie de prendre la place d'un chef. Je ne suis pas un chef. Mais je vous considère comme ce que Paul a dit de son assemblée un jour. Vous êtes les étoiles de ma couronne. Quand je traverserai le pays de l'autre côté, là-bas, et que je vous rencontrerai dans cette condition glorifiée, je veux que vous soyez là comme des étoiles brillantes de ma couronne, voyez? Et je veux que vous soyez là, je veux être là. Et je me souviens dans ma vision, quand j'ai vu la présence du Seigneur ou ces gens dans ce pays glorieux là-bas, j'ai regardé autour de moi et je leur ai dit, et ils m'ont dit qu'ils me jugeraient premièrement d'après l'Évangile que je prêche. J'ai dit exactement comme Paul l'a prêché. Et ces millions de gens se sont écriés, nous nous reposons là-dessus. Voyez, voyez. Or, je veux qu'il en soit ainsi. Et nous allons nous rencontrer là un jour. Et Dieu n'a pas envoyé Frère Neville et moi pour être des chefs, pas du tout. Nous ne sommes que vos frères, voyez-vous, des instructeurs dans l'Évangile. Alors, travaillons tous ensemble. Et parfois, si un don doit être corrigé ou repris à ce sujet, corrigé de la chair ou quelque chose du genre, et si la personne qui a ce don n'accepte pas la réprimande, souvenez-vous, si elle la refuse, souvenez-vous, le don n'était pas en ordre. Ce n'était pas Dieu dès le départ. L'Esprit de Dieu est toujours prêt à la correction, doux et humble, disposé, voyez. S'il se lève et dit, je vais le faire de toute façon, vous savez comment parfois, rappelez-vous simplement, les esprits arrogants ne sont pas de Dieu, voyez. Alors, pourquoi prendre un substitut quand tout la terre entière est remplie de la gloire de Dieu? Vous voyez, la vraie puissance de Dieu. Pourquoi prendrions-nous un substitut? Le jour est trop avancé maintenant, mais rappelez-vous, la Bible a dit qu'il viendrait comme un aussi sournoisement que possible et séduira même les élus si c'était possible, vous voyez? Et bon, parfois, nous pensons que nous sommes les élus, et j'espère que nous le sommes, mais restons parfaitement alignés avec la Bible. Et puis, si tout est aligné avec l'Écriture et selon l'ordre de l'Écriture, donnant la gloire à Dieu et l'honneur de l'Église et tout, alors nous savons que c'est de Dieu parce que la Bible le soutient. Mais notre théorie à elle seule ne le soutiendra pas. Ça ne servira à rien, ça va tomber à l'eau. Ainsi donc, si quelque chose nous a frappé, peu importe combien ça semble réel, si ce n'est pas juste, pas scriptural, débarrassez-vous-en tout de suite, car il y en a une vraie qui attend, voyez. Alors priez maintenant et toujours, et quoi que vous fassiez, priez pour moi. Priez pour moi, parce qu'à mon avis, nous allons dans les champs de mission pour la dernière fois. Nous y allons maintenant. Et souvenez-vous qu'il se passe de grandes choses dont le monde ne sait rien. Jésus est venu, a vécu, est mort, et en se sacrifiant, il est retourné dans la gloire, et des millions n'en ont jamais rien su, voyez? Ce ne sont pas les choses florissantes, grandes, imposantes, c'est il est venu vers les siens, voyez? Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, pas au monde, à l'Église. C'est l'Église qui est secouée. Je pensais autrement jusqu'au jour où il m'a parlé et m'a ramené dans la parole. Il m'a rappelé de tout ce que les prophètes avaient dit. Quand Jean est venu, il a dit, « Les endroits élevés seront abaissés, et les endroits abaissés seront élevés, et comment la puissance de Dieu sera à l'œuvre, et que toutes les montagnes sauteraient comme des petits béliers, et les feuilles battraient des mains. » Eh bien, on aurait dit que quelque chose allait vraiment prendre place, voyez? Et quand c'est arrivé, que s'est-il passé? Un homme est sorti du désert avec probablement une barbe très longue et enveloppé d'une vieille peau de mouton. Il n'y avait pas de commodité dans ce lieu sauvage. Il était là depuis l'âge de 9 ans et là, il en avait 30. Il est sorti du désert en marchant d'un pas ferme, prêchant la repentance dans la boue jusqu'aux genoux, probablement sur les rives du Jourdain. Et c'est là que les endroits élevés ont été abaissés et les endroits abaissés ont été élevés. Voyez? Vous devez avoir une compréhension spirituelle. Souvenez-vous, Dieu n'a jamais et ne va jamais sur cette terre se retrouver dans la beauté de l'amour. Il s'y oppose. Il ne fera jamais. Les grands messages ne seront jamais « rend célèbre un tel et un tel ». Ça n'arrive pas comme ça. Ses serviteurs ne travaillent pas de cette manière. Sa splendeur et sa gloire sont d'en haut. Rien. Il y a deux jours, en allant au Kentucky, dans le Kentucky, avec mon bon ami, frère Banks Wood, il y avait une femme policière qui se tenait là et il a dit, « Mon gars, on est mieux de ralentir, elle est impitoyable. » Et j'ai dit, « Oui, c'est vrai. » J'ai dit, « Quand une nation arrive au point où il y en a des millions qui travaillent, mais qu'ils doivent prendre des femmes pour en faire des policières et les envoyer là-bas, des chauffeurs de taxi et ces choses-là, c'est l'une des grandes tâches sur notre nation. » Elle a autant d'affaires là qu'un lapin dans une poêle de graisse. Vous voyez? Ce n'est tout simplement pas sa place. Et j'ai dit, cela me dérangeait tellement, mais maintenant, je me rappelle, eh bien, pas étonnant. Ce n'est pas notre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde. Ils ont vous. Pourquoi les femmes, nos femmes, ne portent-elles pas leurs cheveux courts, du maquillage, le rock and roll et tout cela? Eh bien, les gens vont dans les églises traditionnelles et se disent, ce n'est pas grave. Pourquoi? Ils sont américains. Ils sont américains. Ils ont l'esprit américain. Nous ne sommes pas américains, nous sommes chrétiens. Nous vivons, notre esprit est d'un autre royaume. Si notre esprit était ce royaume, alors nous adorerions ces choses et nous adorerions tous ces chants vulgaires et adorions tout ce rock and roll, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et nos trésors sont en haut. Par conséquent, nous allons vers un royaume. Ce n'est pas notre maison, nous ne faisons que séjourner ici pour essayer de faire sortir d'autres citoyens des ténèbres. Et nous allons dans une ville et peut-être que nous tenons une campagne à la grandeur de la ville et labourons pour une semaine ou 10 jours pour une seule âme précieuse, une assise là-bas quelque part. Vous pourriez dire, la réunion a été un grand succès. 5 000 personnes sont venues à l'hôtel. Peut-être qu'il n'y en a pas une seule qui soit sauvée, pas une seule, voyez? Il se pourrait, vous pourriez penser, seulement 2 personnes sont venues à l'hôtel, mais l'une d'elles pourrait être un joyau. Nous ne faisons que jeter le filet dans la rivière. Dieu choisit le poisson. Il sait lequel est un poisson et lequel ne l'est pas. Vous voyez, nous ne faisons que prêcher. Et rappelez-vous que vous faites la même chose dans ce tabernacle. Mais rappelez-vous toujours de ceci. Mes brebis connaissent ma voix. Et la voix de Dieu est sa parole. Je pense l'autre jour à ces gens qui disent qu'il n'y a jamais eu une certaine dénomination d'Église disait « La guérison divine n'est pas en ordre. Jamais personne n'a reçu de don de guérison divine à part Saint Paul ou les apôtres, les 12 dans la chambre haute. Ils ont reçu le don de guérison divine et c'était les seuls. » Ça règle la question. Mais voyez, à travers ce merveilleux diagramme que le frère Willie nous a si merveilleusement préparé, ce petit fil, est passé par les églises d'un bout à l'autre. Je me demande que cette même dénomination dit sur l'histoire de l'Église, sur Irénée, sur Saint-Martin. Et tous ces martyrs à travers l'âge, pendant des centaines d'années après la mort des apôtres, parlaient en langue et guérissaient les malades et ressuscitaient les morts et faisaient des miracles et l'Église entière. Je me demande ce qu'il en est d'eux, si ce n'était que pour les apôtres. Vous voyez comme c'est étroit. Ils n'ont pas de compréhension spirituelle, c'est tout. Aveugle, mort dans le péché et les offenses. Le péché signifie l'incrédulité. Tout ce qui découle de l'incrédulité est un péché. Si un homme possède un titre aussi long de DD, LL, PhD, LLD, et il dit « ça n'existe pas, la guérison divine ou le baptême du Saint-Esprit », l'homme est mort dans le péché. Il est peut-être capable d'expliquer toutes sortes de mystères de la Bible, mais sa vie même, son témoignage, prouve qu'il est mort. Il est mort dans le péché et les offenses parce qu'il est un pécheur. Le péché, c'est l'incrédulité. N'importe qui devrait... Le péché, ce n'est pas de commettre l'adultère, de fumer des cigarettes, de danser et se comporter comme ça. Ce n'est pas le péché, ce sont les attributs de l'incrédulité. Mais un croyant, peu importe si un homme ne boit pas, ne fume pas, ne fait pas ces choses, ne dit jamais un mauvais mot, garde tous les 10 commandements, il peut quand même être noir de péché. Voyez? Peu importe son rang, s'il nie quoi que ce soit de la puissance de Dieu, c'est un pécheur. Le mot péché signifie incrédulité. Maintenant, voyez si c'est vrai ou pas. Un incroyant dans la parole de Dieu, c'est un pécheur et il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Maintenant, j'ai pensé ce matin en prenant sur moi par la volonté du Seigneur, par l'ordre du Saint-Esprit, de venir de nouveau au tabernacle et peut-être de vous garder tous 2 ou 3 heures, car je veux terminer le livre du chapitre 4 de l'Apocalypse avant de partir. Maintenant, j'espère que ce n'est pas fatigant pour vous. J'espère que c'est glorieux pour vous. J'espère que c'est quelque chose qui va vous faire du bien et va vous aider dans les jours à venir. Et bon, peut-être, j'ai dit à Billy de venir ici ce matin et de distribuer des cartes de prière s'il avait des étrangers parmi nous. Parce que nous allons partir et aussi, je ne sais pas quand nous serons de retour. Dieu seul le sait. Et je voulais, j'ai pensé peut-être que la dernière réunion, c'est quand il m'a appelé vers 9 heures et m'a dit, « Papa, il y a quelques personnes là qui veulent que l'on prie pour eux. » Je leur ai demandé, mais il a dit, « Ce sont des gens qui viennent tout le temps à l'église. » J'ai dit, « Alors, ne donne pas de carte de prière, voyez. » J'ai dit, « Parce que ce sont des gens, si nous prions pour les malades ce matin, nous allons faire avancer et prier pour eux. » Mais j'ai dit, « Si ce sont des gens qui viennent au tabernacle que nous connaissons, non, je veux des étrangers. » Et il a dit, alors qu'il sortait il y a quelques instants, quand il m'a rencontré dehors, là, il a dit, « Eh bien, j'ai donné quelques cartes de prière. » Il a dit, « Juste quelques-unes à l'intérieur. » J'ai distribué des cartes de prière. Il a dit, « Tu peux faire ce que tu veux. » J'ai dit, « Eh bien, nous verrons si le message avance bien. Nous verrons où nous en sommes et nous irons de l'avant. » Il a dit, « Eh bien, des gens voulaient des cartes de prière, bien sûr, mais il a dit, c'était des gens qui sont là dans l'Église. » Voyez? Eh bien, nous savons que Dieu est Dieu. Et oh là, juste les choses qu'il fait, eh bien, le téléphone sonne tout le temps. De gens, de différentes choses, de toutes petites choses parfois, et comment Dieu répond à la prière. Je me demande si cette petite dame ou son mari est ici, de New Albany, qui ont amené ce petit bébé étouffé l'autre nuit avec une pneumonie chez moi vers 00h01. Voilà, c'est bon. Comment va le bébé? Bien, c'est bon, très bien. Laissez-moi juste vous montrer, vous voyez, que c'est quelque chose qui vous est caché, qui ne consume pas quand le Saint-Esprit le dévoile. Fred Stoutman, notre précieux frère, je l'ai entendu dire « Amen » il y a quelques instants, mais je n'ai pas pu le repérer. Où est-il? Est-il ici? Ici, juste ici, frère Fred Stoutman. Et pour montrer à quel point c'est simple, il avait des amis qui venaient, c'était frère Wells Evans, je présume que je ne sais pas. Il avait une remorque là-bas, il avait fermé les portes à clé, et Fred a perdu les clés, ils ont cherché partout, ils ne les trouvaient pas. Et frère Wells allait bientôt arriver. Alors, le jour est venu où il devait arriver et tout, il ne trouvait pas la clé nulle part. Alors, il a appelé chez moi et il a dit, « Frère Branham, où sont les clés? Où pouvons-nous les trouver? » Cela pourrait déconcerter certains d'entre vous qu'un homme pose une question comme ça, mais attendez une minute. Rappelez-vous des fils de Jesse qui cherchaient des mulets? S'il y avait un présent, je l'amènerais et je le montrerais, demanderais, donnerais au prophète et peut-être qu'il nous dirait où était ce mulet. Vous vous en rappelez? Et comme ils marchaient dans la rue, ils ont rencontré le prophète. Il a dit, « Vous cherchez ce mulet? » Il a dit, « Voilà, retournez chez vous, dit-il. Ils sont déjà rentrés. » Pas vrai? J'ai prié. Fred s'est mis à marcher. Il a ramassé les clés. C'est tout. Vous voyez? Frère Ed Dalton, où es-tu? Où est Ed Dalton? Je sais qu'il est ici quelque part. Je l'ai vu il y a un moment. Oh, en arrière, le voilà. Il m'a entendu par l'interphone ou le système de sonorisation l'autre soir. J'ai eu un appel et frère Ed avait de sérieux problèmes. Je voulais l'aider. Non, il a dit, je veux juste que tu le demandes à Dieu. J'ai demandé au Seigneur de l'aider et le lendemain, sa femme a appelé. Quelqu'un était venu à la rescousse. Très bien. Pas vrai, frère Ed? Voyez? Il est simplement Dieu, c'est tout. Il est simplement Dieu, voyez? Et c'est tout le temps, sans arrêt, d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre. Peu importe les problèmes, il est Dieu. On ne se pavane pas en se vantant de ces choses. On n'est pas censé le faire. Ne laissez pas la main droite ou la main gauche savoir ce qu'est en train de faire la main droite. Nous en parlons entre nous, mais nous ne le proclamons pas ailleurs. Parce que c'est de l'orgueil, comme si Dieu ne pouvait le faire que pour une seule personne. Il le fait, va le faire pour n'importe qui va le croire. C'est de croire la foi. Quoi que vous vouliez faire, quelles que soient vos pensées, remettez-les à Dieu. Il pourvoit pour tout. Pas vrai? Ainsi, il répond à la prière. C'est un Dieu est un Père qui répond aux prières. Maintenant, si donc j'ai pensé en terminant dans cette dernière réunion et tout, comme nous le faisions, nous aurions peut-être un peu de discernement à la fin de la réunion, si le Seigneur le veut, et peut-être pendant la réunion, nous ne savons pas ce qu'il va faire. J'aime ça comme ça. Ne planifiez rien de précis. Laissez-le faire ce qu'il veut. Maintenant, prenez le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse et arrêtez l'horloge. Oui. Oui. Oui, frère. Certainement, je crois cela. Absolument que j'y crois. Ici, frère Will Chevens, je pense que c'est lui assis juste là. Laissez-moi, pendant que nous prenons Apocalypse 4. Ici, il n'y a pas longtemps, vous avez tous entendu parler et lu dans les journaux de ce gang à Louisville qui vole ses voitures, les amène dans le Kentucky quelque part en vitesse. Et dans le Kentucky, vous n'avez même pas besoin d'avoir le certificat. Ils vont vous en faire une dans le Kentucky. Or, vous n'avez que tout ce que vous avez à faire, c'est de l'amener là-bas et de la vendre. Alors, ils vont prendre ces voitures et les cachent pour les repeindre, puis les ressortent et les vendre. La seule chose dont vous avez besoin, c'est votre numéro de rue et ils vont vous faire un certificat. Alors, ils prennent la voiture dans la rue et se sauvent très vite et l'amènent dans un atelier quelque part. Ils changent tout, voyez, et ils la repeignent et tout, et ils la sortent et la vendent. Et il y a un racket de ça, et spécialement au sein des États-Unis et en grande partie au Kentucky. J'ai lu un article là-dessus dans le journal il n'y a pas longtemps. Eh bien, le précieux frère Evans et sa famille au grand cœur conduit tout le long chemin depuis Macon en Georgie jusqu'ici chaque dimanche pour entendre l'Évangile. Oh, comme c'est loyal et quel véritable ami. Puis il va à la cafétéria Miller où je ne fais pas de la promotion pour Miller's, mais je pense certainement qu'ils ont la meilleure nourriture du Kentucky, Louisville, Kentucky en tout cas. En ce qui concerne, là, je ne parle pas de vos maisons privées où j'ai mangé là-bas. Je parle, vous savez, pour ceux de l'extérieur. Et je mange là-bas aussi. Je peux nourrir ma famille là pour moins cher qu'à la maison. C'est vrai. Alors, j'entre là, ainsi que frère Evans, et il se commande quelque chose à manger et garde sa voiture là. Quand il sort avec tous ses vêtements et sa famille et tous les autres, il n'avait plus de voiture ni rien. Tout avait disparu. Eh bien, le pauvre frère Evans est un homme comme nous tous. Il a une petite entreprise là-bas. Il travaille sur des voitures. Il achète des accidentés et les répare. C'est un homme pauvre et il dépense son argent à venir ici parce qu'il croit en ce genre d'évangile. Je prie que Dieu leur envoie un messager là-bas quelque part pour les aider dans ce pays. Donc, frère Evans est arrivé, il ne savait plus quoi faire, il avait prévenu la police, ils ne sont pas parvenus à la trouver. Alors, il est venu à la maison, lui et frère Fred, et d'autres, nous nous sommes assis dans la pièce et en avons parlé. J'ai dit, bon, c'est comme ça que nous faisons, on s'installe dans la pièce, on découvre ce qui est arrivé, ensuite nous allons vers Dieu. Quand nous avons demandé au Seigneur que l'homme qui a pris la voiture fasse demi-tour et la ramène où qu'il soit, d'habitude, ils les amènent dans le coin de Bowling Green ou quelque part, ils les font sortir de ce point chaud ici, vous voyez, afin de pouvoir jusqu'à ce qu'ils aient repeint et arrangé. C'était une belle voiture, je pense, une familiale, n'est-ce pas, frère Evans? C'était une unifamiliale. Alors, ce qui est arrivé, on s'est agenouillé et on a prié et le Seigneur s'est manifesté, tout était réglé, tout allait bien. C'est alors que la puissance du Seigneur était avec nous. Frère Evans est sorti et il est parti, conduit à aller dans une certaine direction et il est revenu ici à Jeffersonville. La voiture avait été volée à Louisville. Voici que sa voiture était là avec juste assez d'essence pour l'amener où il en avait consommé. On avait dû la conduire jusqu'à proximité de Bowler Green et revenir. Ils étaient sortis de la voiture, l'avaient arrêté, avaient laissé la clé dedans. Ils sont partis à pied. Ils l'ont laissé là, ici même, à Jeffersonville, où ils pouvaient la trouver, pas à Louisville, ici à Jeff. Ils l'avaient ramené jusqu'ici. Vous savez, le Seigneur peut faire que les oiseaux lui obéissent, il peut faire que les hommes lui obéissent, il peut faire que son ennemi lui obéisse. Et oui, monsieur, il est Dieu. Voici que sa voiture était là, sans que rien ne manque, juste un demi-réservoir d'essence, parce qu'il s'était presque rendu jusqu'à Bowler Green, et le Saint-Esprit a dû dire, fais demi-tour, retourne là-bas et ramène cette voiture à Jeffersonville. Laisse-la ici dans la rue et garde-la juste ici, parce que je vais l'envoyer par ici pour la trouver. Est-ce vrai, frère Welch? C'est exact. Voyez? Il est Dieu. Il répond à la prière. Frère Roy, il est juste frère Slaughter. C'est exactement la même chose. Il a guéri votre petit chien. Et je sais qu'il guérit. Il répond à la prière. Il accomplit encore des miracles. Il est toujours Dieu. Il a toujours été Dieu. Il sera toujours Dieu. Il est Dieu sur le toit. C'est quoi déjà ce que le frère chante ici à l'église? Dieu dans la cuisine. Dieu sur la ferme. Dieu dans l'automobile. Il est Dieu partout. Il est tout, tout en tout. Dieu. Oh, comme c'est merveilleux. Nous nous mettrons à prêcher après un moment et on n'arrivera jamais à cette leçon. Très bien. Inclinons la tête juste un moment pour prier. Père céleste, miséricordieux, nous aimons tant ta sainte parole que notre cœur brûle en nous. Quand nous savons que ton esprit descend au milieu de nous et qu'il nous parle, et que notre cœur s'ouvre et s'en empare, il semble qu'on se sent tellement bien avec cela, Seigneur. Et de savoir qu'en cette heure sombre, où il y a tant de confusion, comme l'a dit le prophète, dans les derniers jours, il y aura une famine, quelque chose de cet ordre. Non pour le pain et l'eau, mais pour entendre la véritable parole de Dieu. Et les hommes iront de l'est à l'ouest, du nord au sud, pour trouver la véritable parole de Dieu. La parole, qu'est-ce que c'est? Jésus est la parole. La parole s'est faite chair et a habité parmi nous. De voir la manifestation de la véritable parole de Dieu qui se manifeste selon les Écritures et s'accomplit. Et comment les gens voyageraient et chercheraient et ne la trouveraient pas. Oh Dieu, nous sommes si heureux de l'avoir trouvée il y a des années. C'est précieux à notre cœur et de voir que nous ne sommes aucunement confus. Oh Dieu, tu as dit, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits en ce jour-là. Et nous voici dans les derniers jours. Nous voyons tout ce que Jésus a dit qui allait arriver, se manifester parmi nous. Les mêmes signes, prodiges, miracles sont accomplis exactement comme il l'a fait. Comme il a dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et Seigneur, tu nous as laissé, par le Saint-Esprit, atteindre cette parole et recevoir ces choses réelles et les associer au calvaire par la parole et voir qu'en lui, nous avons la plénitude et les richesses et les bénédictions et la gloire et tout va à celui qui en est digne, qui est venu et a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône et s'y est assis lui-même. Car il a été immolé dès la fondation du monde. Nous parlons de lui ce matin, Père. Nous prions que tu bénisses notre cœur, que son esprit se meuve parmi nous et nous bénisse et enrichisse notre expérience et qu'il guérisse la maladie au milieu de nous et nous donne la grâce de vaincre. Et ô Dieu, comme je parle là-bas sur les champs de mission pour affronter l'adversaire, que je sois conscient que je suis entouré d'une garnison à chaque heure par la prière. Oh, comme je dépends de cette garnison quand l'ennemi s'approche. que je sache que la garnison tient parce que des mères et des pères, des garçons et des filles, des chrétiens, nés de nouveau avec l'expérience, les gens qui sont en route pour le ciel, sont à genoux et prient, ô Dieu, accorde la délivrance. Et Père, nous prions que tu nous laisses aller dans les lignes d'ennemis et conquérir toutes les âmes précieuses qui sont dans l'attente. Fais, Seigneur, qu'il passe des ténèbres à la lumière, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, nous avons terminé le chapitre 3 et soyons en sorte respectueux et j'essaierai de ne pas vous garder trop longtemps, mais dans ce chapitre 3, l'Église est montée comme un type quand Jean a été ravi. L'Église est montée et à partir de ce moment-là, il traite avec Israël jusqu'à son retour. Ne voyez pas ce qu'il en est? Les gens aujourd'hui, comment ils sont? Un grand quelque chose va secouer le monde entier et tout. Ce n'est pas scriptural. Non, monsieur. La prochaine chose qui doit arriver est le départ de l'Église. Lisez dans les âges de l'Église, vous verrez ce que... Or, ces autres choses qui doivent se produire et pendant le temps de la cérémonie de mariage, quand l'Église est dans la gloire, Dieu revient accomplir de grands prodiges, des miracles internationaux et ces choses par les Juifs. Et ne concerne pas du tout l'Église. Au troisième chapitre, l'âge de l'Église se termine, c'est vrai. Et l'âge de l'Église se termine avec une si petite minorité que nous trouvons. Écoutez bien ceci, je vais relire ceci ce matin, ça m'a presque démoli. La position et l'attitude de Christ à la fin de l'âge de l'Église. Ça se trouve du verset 20 au verset 22 de l'Apocalypse 3. Pensez-y, Christ, à la fin, où se trouve-t-il? Où est-il à la fin de l'âge de l'Église? À l'extérieur de son Église, poussé à l'extérieur par des dénominations et des credos. Quelle est son attitude? Il essaie de revenir à l'intérieur. C'est une condition pitoyable. Puis nous voyons ici, après ces choses, qu'il a entendu une voix qui lui parlait et qui, oh, qu'est-ce que c'était? L'Esprit avait quitté la terre. Après ces choses, ça commence au chapitre 1 ou au verset 1. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Apocalypse 4, 1. Après le départ de l'Église, alors, une porte a été ouverte et nous avons parcouru tout cela et constaté que c'était Christ qui était la porte et la même voix qui marchait au milieu des sept chandeliers d'or était aussi la même voix qu'il avait entendue au ciel qui disait « Monte ici, Jean est monté ». Ça représentait l'Église qui va dans l'enlèvement. Jean est monté dans l'Esprit. Il a été ravi au ciel et a vu d'avance tout ce que Dieu avait promis. Et il a dit aux disciples, « Que vous importe si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » Et il a vu la venue du Seigneur et ce qui allait se passer. Il a vu sur terre ce qui allait se passer sur la terre à l'enlèvement de l'Église. Il a été ravi et on lui a tout montré, même ce qui suit le millénium. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Bon, nous l'avions laissé dimanche dernier au chapitre 4, au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. Et or, nous avons découvert que c'était des anciens. Un ancien ne s'applique jamais à un ange ou à aucun autre être. C'est un être humain racheté des anciens. Parce que les trônes, les couronnes et la domination ne font jamais référence aux anges. Mais les couronnes et les trônes et tout concernent les êtres humains. Et ces vieillards étaient couronnés, vêtus et assis sur des trônes. Et nous avons trouvé dans d'autres parties de l'Écriture qu'ils étaient les 12 apôtres et les 12 patriarches. 24 d'entre eux, ce qui signifie 24, 12 apôtres, 12 patriarches. Et nous avons trouvé même la ville qui descend du ciel d'auprès de Dieu après que la terre aura explosé et aura été mise en pièces et qu'il n'y aura plus rien sur la terre à part des cendres volcaniques. C'est tout ce qu'il restera. Il n'y aura plus de mer. La mer va s'assécher. Comme je le disais hier soir à quelqu'un, ou hier, quelque part, où un jour la Terre se trouvait comme ceci, parfaitement autour du Soleil, avec une chaleur égale partout de haut en bas. Là-bas, dans les champs de glace britanniques, vous pouvez faire exploser là-bas 500 pieds de creux et y trouver des palmiers. C'est arrivé soudainement, tout a gelé, comme la réfrigération maintenant, comme votre déshydratation et ainsi de suite, et votre congélation et vos congélateurs qui gardent les fraises et ces choses pendant des années et des années et des années à venir. Vous voyez, c'est la même chose qu'à l'époque. Rapidement, une destruction antédiluvienne s'est produite et a inondé la Terre entière. Et quand c'est arrivé, les puissances atomiques l'ont fait basculer de son orbite, alors elle a gelé et la voilà. Vous voyez? Creusez, vous pouvez les trouver autour des zones arctiques, des palmiers et ainsi de suite. Ça montre qu'elle était jadis magnifiquement habitée, aménagée, mais maintenant elle a été secouée. Or, l'endroit où je pense que Dieu a pris cette eau, au commencement de la Genèse, Genèse 1, la terre était informe et vide et l'eau se trouvait dans les profondeurs. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau et a dit que la lumière soit. Puis Dieu a séparé la terre et l'eau qui ont formé la terre, mais toute la terre était recouverte. Alors, ce qu'il a fait, il ajuste à travers les atmosphères, il ajuste l'atmosphère et l'atmosphère est remplie d'hydrogène et d'oxygène et ainsi de suite. Alors, il a simplement pris de la terre et l'a séparée. Il n'y avait pas de mer sur la terre. Alors, Dieu arrosait la terre, il n'y avait même pas de puits. Il l'arrosait par le moyen des sources et ces choses, l'irrigation. Puis quand la seule chose qu'il a faite alors, quand l'homme l'a fait sortir de son orbite d'un côté, que s'est-il passé? Cela a projeté la chaleur par ici et le froid par là-haut et le chaud et le froid, qu'est-ce qui s'accumule? Nous pouvons le ressentir sur les fenêtres ici en ce moment, le chaud à l'intérieur et le froid à l'extérieur. Vous voyez la buée? Et la pluie n'est que de la buée, de la transpiration. Et l'eau, c'est descendre. Et alors, quand il a... J'aime ce chant. Tu as posé ta main sur les prairies, précieux Seigneur. Tu as posé ta main merveilleuse sur le pâturage. Seigneur, tu as versé la fontaine, surélevé la montagne. Oh Seigneur, garde ta précieuse main sur moi. Tu as fait les nuages, formé les nuages qui ont produit la pluie. De la pluie, tu as fait la mer. De la mer, produit les nuages pour nous donner la vie en abondance. Tu tiens la terre et le ciel sous ton contrôle, Seigneur. Oh, s'il te plaît, garde ta précieuse main sur moi. Oh, comme c'est grand. Oui, le Dieu du ciel. Alors, en ce temps glorieux, elle est inclinée vers l'arrière comme ceci maintenant. Il nous fait une promesse. Plus d'eau, mais du feu cette fois-ci. Au lieu de la projeter, ils ont projeté la terre loin du soleil, bien sûr. Elle s'est refroidie. Si vous la projetez vers le soleil, elle va brûler. Et comme il l'a détruite par l'eau et a mis l'arc dans le ciel, il ne la fera plus maintenant. Il a fait une promesse qu'il allait la brûler. Voilà donc où le péché et tout le glamour et toute la souillure. Et il n'y a pas longtemps, je chevauchais dans la prairie. Quand j'étais petit garçon, je prenais mes livres d'histoire et de géographie et je pensais aux grandes plaines de l'Ouest. Un jour, j'ai dit, je vais y vivre paisiblement et tranquillement. Là, il n'y a pas de péché et j'errerai dans les champs et je chasserai comme l'Indien. Et je vivrai là une vie paisible tous les jours de ma vie. Mais maintenant, c'est l'homme blanc est passé par là. Là où va l'homme blanc, le péché est avec lui. Il est le plus grand meurtrier et tueur de tous les peuples de la terre. C'est l'homme blanc. C'est le renégat de toutes les couleurs. Il n'y a pas longtemps ici dans le journal, frère Tom ici de l'Afrique, j'ai vu un extrait du journal il y a 2 semaines. Je crois qu'il a dit, il disait, si les Américains sont toujours autorisés à aller en Afrique dans 10 ans, le grand lion africain sera complètement en extinction. Les éléphants, Les renégats tirent partout où ils peuvent. J'ai eu une photo de deux gros mâles qui essayent de tenir un mâle blessé debout. On aurait dit que des larmes coulaient de leurs yeux. Ils ne voulaient pas que les mâles ne voulaient pas que la femelle demeure. Et chacun la retenait par son côté comme ceci pour l'empêcher de tomber par terre. On l'avait tiré, mise en pièce. Un gars qui tire n'importe quoi comme ça ne mérite pas d'avoir une arme à la main. C'est vrai. Vous n'avez pas assez de bon sens pour vous en servir. Il y a quelques années, j'essayais de faire rentrer un troupeau de wapitis chez mon bon ami frère Roy Robinson et les autres là-bas. Lorsque j'étais guide au Colorado, je savais que nous avions un beau troupeau. Jeff et moi les avions depuis des années, environ 80 wapitis formaient le troupeau et ils ont laissé certains de ces gars de bureau de Denver venir là-bas avec ses pantalons en chemisier, leurs jambières à lacets. Eux, des chasseurs. Les voilà qui arrivent là-haut, un groupe en jeep et des choses du genre. Ils sont venus dans notre territoire et je conduisais ces wapitis à travers les montagnes derrière eux à environ 1 ou 2 000, ils broutaient en chemin. Il faut les tenir à l'écart des gros taureaux et tout le reste, sinon vous brisez votre troupeau. C'est comme d'élever du bétail ou quoi que ce soit d'autre. La faune devait être pareille pour nous. Ce n'est pas une cible. Si vous voulez tirer sur une cible, il y a des places de tir. Ici, on peut tirer, c'est vrai. C'est une honte de massacrer ces bêtes comme ça. C'est un péché. C'est impie. Et j'ai compté 123 coups de mitrailleuse, environ comme s'ils tiraient des munitions de leurs épaules. Et le lendemain matin, frère Banks Wood ici avec moi est allé sur la montagne. J'ai compté 19 flaques de sang. Ils ne connaissaient rien de la chasse. Vous pouvez tirer un gros animal comme ça, vous pouvez le frapper assez profondément pour le tuer. Ils tiraient partout, bang, bang, bang. Ils tiraient l'un puis l'autre. Et bien, ils vont mourir. Et après que la fièvre s'installe en eux et vous les retrouvez, ils ne sont plus bons. Ils se gazent sur le champ et les charognards, les coyotes et tout, ça les mange. 19 lits ensanglantés de gros mâles, des sabots aussi gros que ça et du sang qui avait jailli à 2 pieds de l'endroit. Il avait été perforé comme ça par ses armes. Il ne devrait pas permettre à un renégat du genre d'avoir une arme à la main. C'est vrai. Il n'a pas assez de bon sens pour se servir d'une arme. Oh, c'est terrible. C'est un péché de faire ça. C'est terrible, mais c'est l'Américain. Au Canada, vous, précieux peuple du Canada, si l'Amérique continue, le Canada va devenir aussi bas que l'Amérique après un certain temps. Traversez les frontières du Canada n'importe où et vous avez cette atmosphère américaine. Cette Amérique est la prostituée des nations. C'est exactement ce qu'elle est. Et maintenant, elle va devenir pire que jamais. Elle arrive à sa fin. La Bible parle de son destin funeste. Et il dit comment elle va être. L'Amérique, dégradée, pourrie, corrompue, bonne à rien. C'est tout à fait vrai. C'était une grande nation. Elle a porté le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait d'elle ce qu'elle est? C'est qu'elle a refusé le message de l'Évangile et rejeté les vérités. Elle est horrible. Elle sait ce qui l'attend, ne vous inquiétez pas. Je l'ai vu dans la vision comme l'insidie du Seigneur, ça s'en vient. Elle va payer pour son péché. Lorsque l'Amérique était l'Amérique, c'était une grande nation, la plus grande que le monde ait jamais connue depuis Israël. C'était l'Amérique, mais elle s'est certainement polluée à présent. Elle a rejeté le message, elle n'a rien pris, maintenant elle s'est retrouvée, vous pouvez voir où elle en est maintenant. Tout le monde le sait, les dernières élections montrent où son état spirituel en est rendu. Oh oui, elle ne le sait pas. Maintenant, ces vieillards assis sur le trône, chacun avec sa couronne. Maintenant, le verset 5, nous allons commencer. « Du trône sortent des éclairs, tonnerres, voix. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. » Oh, j'aime ça, pas vous? Oh, j'ai juste l'impression que mon manteau me va bien, vous savez. Et quand... Oh, je veux dire dans mon manteau spirituel, bien sûr, vous savez. Très bien. Du trône. Parlons de ce trône pendant quelques minutes. Ce n'était pas un trône de miséricorde. Le trône de miséricorde est terminé. Aucune miséricorde, c'est sans miséricorde. Comment allons-nous? Comment le tribunal sera-t-il le tribunal de Christ? Le tribunal, le jugement du trône blanc? Y aura-t-il de la miséricorde alors? Il n'y a aucun once de miséricorde à accorder au trône de jugement. Vous pourrez crier miséricorde jusqu'à ce que vous ne puissiez plus crier. Vous pourriez aussi bien crier à tout vent parce qu'il n'y a plus de miséricorde. C'est maintenant le jour de la miséricorde. Maintenant, revenons un peu ici dans l'Ancien Testament pour voir ce qu'est la miséricorde. Retournons voir ce qui est arrivé à ce trône. Ce trône, bien sûr, est le tribunal. Et parce que la raison pour laquelle il y a de la miséricorde aujourd'hui, c'est parce que le propitiatoire est aspergé par l'expiation, le sang. Et aussi longtemps que le sang est sur le tribunal, alors ce n'est plus le jugement, c'est la miséricorde, car quelque chose est mort pour arrêter le jugement. Si vous le voyez, dites « Amen ». Aussi longtemps que le sang est sur le propitiatoire, cela indique que quelque chose est mort pour retenir le jugement. Mais dès que l'Église est enlevée, le propitiatoire devient un tribunal. Ça se poursuit, vous savez, dans le Nouveau Testament ici aussi, et le sanctuaire, c'est là que le jury, dans le sanctuaire, le juge est au tribunal, dans le sanctuaire. Maintenant, ce tribunal qui se trouve dans le sanctuaire, c'est rempli de fumée. Qu'est-ce que c'était? Comme au Mont Sinaï. Le jugement. La miséricorde avait quitté le trône de Dieu. Dieu jugera le monde sans miséricorde. Combien le savent? Il n'y a qu'une chose qui va reconnaître en ce jour-là. Qu'est-ce que c'est? Le sang. C'est la seule chose qui apaise un Dieu en colère. Adam et Ève s'étaient fabriqués un aussi bon tablier que n'aurait fait n'importe quel méthodiste, baptiste, presbytérien ou pentecôtiste pour couvrir leur nudité. Cependant, Dieu pouvait voir à travers. Alors, il a tué quelque chose et a pris la peau morte, la peau de l'animal mort, et les en a couverts. Il fallait que le sang prenne sa place. Cela a apaisé sa colère et il a fait marche arrière en voyant le sang, car quelque chose avait versé sa vie. Oh Dieu, pensez-y, la seule chose qui fera reculer Dieu, c'est le sang. Il n'y a qu'un seul sang qui le fera reculer, et c'est celui de son propre fils. Quand il verra que c'est le sang de son propre fils, il reculera, parce que c'est le don que Dieu a donné à son fils pour racheter ceux qu'il a connus d'avance, et cela retient Dieu et son jugement. Mais quand ce sang est enlevé et que tous ceux qui étaient connus d'avance ont été appelés dans le précieux corps, son Église a été préparée et enlevée, alors la colère de Dieu est sur les gens. Ô frères, ne voulez jamais vous retrouver là. Laissez-moi me tenir devant une mitraillette. Laissez-moi être coupé en morceaux. Laissez-moi être scié pouce par pouce, que n'importe quoi m'arrive, comme le serment des chevaliers de Colomb. Laissez-les ouvrir mon ventre et brûler du soufre et tout le reste en moi, et mes bras et mes jambes coupées, quoi que ce soit puisse être, mais que jamais je ne me tienne devant Dieu à ce jugement du trône blanc. Oh, laissez-moi choisir ce petit trône ici, devant le tribunal de Christ, et accepter son sang. Je n'ai dans mes mains rien à t'apporter, Seigneur. Non, non, je ne connais rien, rien d'autre que le sang de Jésus. C'est tout ce que je connais. Ceci est toute mon espérance et mon soutien, rien d'autre que le sang de Jésus. Pas étonnant qu'Eddie Perronet, on ait rejeté ses chants alors qu'il était chrétien, un chrétien convaincu. Il ne voulait pas acheter ses chants. Un jour, il a dit, je vais en écrire un jour, qu'ils vont recevoir. Et les gens voulaient quelque chose de plus moderne, comme des chants religieux. Un jour, le Saint-Esprit s'est emparé de lui, il a saisi la plume et a écrit, gloire au nom puissant de Jésus. Que les anges se prosternent, apportez le diadème royal et couronnez le Seigneur de tous, car Christ est le roc où je me tiens. Tout le reste est sable mouvant. Tout le reste est sable mouvant. Que ce soit l'Église, que ce soit un ami, que ce soit l'ennemi, que ce soit la nation, que ce soit la richesse, que ce soit la pauvreté, que ce soit le bien ou quoi que ce soit, tout le reste est sable mouvant. C'est la seule chose, ça va finalement disparaître. Mais Christ est le roc où je me tiens, tout le reste est sable mouvant. Gardez cela à l'esprit. Remarquez, allons dans Lévitique 16 et lisons des choses anciennes, vraiment très anciennes de la Bible, maintenant dans les lois du Lévitique. Et voyons ici dans Lévitique, le chapitre 16. Et commençons par le verset 14 du chapitre 16. Oh, j'aime prendre mon temps avec ces choses pour les faire ressortir. Lévitique 4 ou Lévitique 16, 14. Il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son doigt sur le propitiatoire, sur le propitiatoire. Regardez, nous allons y venir tantôt. Vers l'Orient. N'oubliez pas ce mot, l'Orient. D'où Jésus est-il venu? De l'Orient. Dans une nuée de gloire. Où est-ce que le S-O-L-E-I-L se lève? À l'Est. Où se lèvera le F-I-L-S? À l'Est. Où se trouvait le propitiatoire? Vers l'Est. Pourquoi vous ai-je tous fait asseoir de cette façon vers l'Est? Pourquoi? L'autel est à l'Est. On va le voir dans un moment, comme c'est beau. Je vais le dessiner. J'ai demandé à tous ceux qui pouvaient d'apporter du papier et tout afin de reproduire ces cartes dans quelques minutes. Très bien. L'aspersion vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion. Saint devant le propitiatoire. Oh, n'est-ce pas merveilleux? 7 fois vers l'Est. Qu'est-ce que c'est? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est tout aussi suffisant dans celle-ci, hier, aujourd'hui et éternellement, et pour tous les âges, de sauver chaque pécheur, de guérir chaque malade, d'apporter chaque miracle, chaque signe qui doit s'accomplir 7 fois, bien loin en arrière, dans l'Ancien Testament, 1450, 90 ans avant la venue de Christ. Pensez-y, le symbole, 7 fois, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang à l'intérieur, au-delà du voile, pour faire avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leur impureté. Qu'est-ce que c'était? Le propitiatoire. Où sont-ils maintenant? Et là, à l'intérieur de l'arche, il y avait quoi? La loi. Et la loi d'en transgresser un commandement, c'était mourir sans miséricorde. Mais étant donné que vous pouviez obtenir miséricorde, le sang devait être appliqué sur l'autel. Il faisait l'aspersion du propitiatoire, et le propitiatoire est l'autel où on s'agenouille pour demander miséricorde. Que Dieu nous garde de le retirer de nos églises. Cet autel à l'ancienne mode où les hommes peuvent s'agenouiller et faire appel à Dieu pour la miséricorde. Et la miséricorde est riche et elle coule librement du sang du Seigneur Jésus. Maintenant, ça aussi, c'est la miséricorde, c'est le propitiatoire. Mais vous remarquerez qu'ici, ce n'était pas un propitiatoire car il y avait des éclairs, des tonnerres et des voix. Il n'y a pas d'éclair ni de tonnerre dans la miséricorde. C'est le jugement. Prenons l'Exode, le chapitre 19 de l'Exode et au verset 16. L'Exode, chapitre 19 de l'Exode. Et commençons au verset 16. Or, il arriva, écoutez, quand Dieu est monté sur le mont Sinaï, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son d'une trompette retentit excessivement fort. Quelle est la voix de la trompette? Celle d'un archange. Et tout le peuple, écoutez, tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le jugement. Il s'était mis en route là-bas Et Dieu leur avait donné la grâce pour voyager, mais ils ont exigé une loi. Dieu voulait qu'ils soient interdénominationnels. Ils ont voulu en faire une dénomination, quelque chose dont ils pourraient argumenter, au lieu de suivre simplement Dieu et vivre sous sa juridiction, sous sa puissance. La grâce avait pourvu d'un prophète. La grâce avait pourvu d'une expiation, un agneau. La grâce avait pourvu toutes ces choses. Et pourtant, ils voulaient un jugement. Et ils voulaient avoir quelque chose à faire. Dieu a dit, « Rassemblez-les. » Et je leur ferai connaître de quoi il s'agit. Je vais leur montrer de quoi il s'agit. Lisez, écoutez. Et la voix de la trompette est devenue de plus en plus forte au point de faire trembler la terre. Voyez ce qu'est le jugement? Je ne veux pas cela, non. Donne-moi miséricorde. Oui. C'était l'Exode, le chapitre 19 et le verset 16, frère Fred. Exode 19, 16. Bon, remarquez le verset 17. Et Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Oh là là! Je veux le rencontrer en paix, pas comme ça. Et ils se placèrent au bas de la montagne, très loin. Souvenez-vous, des limites avaient été fixées tout autour de la montagne. Même si une vache touchait la montagne, elle devait mourir immédiatement. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu. Et Dieu et Moïse fit sortir le peuple. Maintenant, le verset 18, le verset suivant, la montagne du Sinaï était toute enfumée parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu. Tout comme la fumée, le feu d'une fournaise. Comment était-il descendu? Pas dans la gloire de sa Shekina, mais dans la colère de ses jugements. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Frère, je ne veux pas être là. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Moïse a parlé, pas le peuple, il tremblait comme des feuilles. Et le Seigneur descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. Le Seigneur appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. Et le Seigneur dit à Moïse, « Descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers le Seigneur pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux périsse. » Les gens s'assoient à l'arrière de l'église et rient de quelqu'un qui parle en langue et qui danse dans l'esprit. C'est terminé. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit. Ils sont scellés pour toujours. Quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ne le contemplez pas. Tenez-vous loin de cela ou bien acceptez-le. Nous ferons mieux de laisser cette écriture. Lisez-le, le reste de cela. Voyez ce que Dieu a dit. Et le peuple a dit, « Ô Moïse, parle-nous toi-même. Que Dieu ne parle plus. » Nous aurions préféré maintenant n'avoir jamais demandé ceci. Voyez, que toi, tu nous parles, Moïse. Si Dieu parle, nous allons tous mourir. Voyez, Dieu avait pourvu d'une expiation. Bon, la voix du trône. Remarquez dans ce trône, devant le trône, il y avait sept étoiles. La voix des étoiles, des voix, voyez-vous. Nous voyons qu'il y avait plus dans l'Apocalypse 4 ici, ou 5. Nous découvrons, et du trône sortent des éclairs, des tonnerres et des voix. Pas une voix, des voix, au pluriel. Qu'est-ce que c'était? Dieu qui parlait à l'Église, se reflétant dans ses sept esprits. Quand le vrai oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Le rejeter, c'est d'enlever le chandelier. Voyez, des voix, la voix des sept âges de l'Église, ici dans le coin. Des voix qui parlent au milieu du tonnerre et des éclairs. De nos jours, ils sont si... Eh bien, nous ne croyons pas qu'il faut dire le mot enfer à la chair. Oh, miséricorde! Tellement... Bah, Il nous faut des hommes de Dieu, des hommes qui ne vont pas se retenir. Maintenant, tout le monde ne peut pas être prédicateur, mais vous pouvez parler. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes un prédicateur, vous êtes appelé à prêcher à la chair. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes quand même un prédicateur. Mais vivez une prédication devant les gens. Que votre vie soit une prédication, et c'est la voix de Dieu qui va amener l'opprobre sur ceux qui la rejettent. Ils disent, nul ne peut accuser cet homme ou cette femme de quoi que ce soit. Ils sont doux, ils vivent. S'il n'y a jamais eu un homme de Dieu, c'est bien cet homme ou cette femme. Voyez? Vivez vos prédications, n'essayez pas de le prêcher. Si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur, vous allez vous embrouiller de toute façon et mélanger, vous allez embrouiller les gens, vous ne saurez plus. Eh bien, vous allez les gâcher, vous aussi. Vivez simplement votre prédication. Le prédicateur est appelé à prêcher la sienne et à la vivre également. Si vous ne voulez pas la vivre, alors cessez de le prêcher. Mais vous êtes censé vivre vos prédications. Très bien, ici se trouvaient des voix. Oh, comme nous avons besoin à Jeffersonville des milliers de voix qui ont vécu le tonnerre de Dieu qui gronde dans la douceur et la sainteté, la pureté des vies, exempte de souillure, marchant sur la terre aujourd'hui sans défaut. Oui, monsieur, de vrais chrétiens, c'est du tonnerre contre l'ennemi. Le diable se contrefiche de savoir à quel point vous criez. Le diable se contrefiche de savoir à quel point vous pouvez sauter ou faire ceci ou pousser des cris. Mais ce qui fait du tort au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, cette vie sainte, consacrée à Dieu. Quoi que vous lui disiez, que vous le traitiez de n'importe quoi, il reste aussi doux qu'on puisse l'être et continue simplement à avancer. Oh là là, ça le fait fuir au loin. C'est ça le tonnerre qui fait trembler le diable. Tout comme, eh bien, vous dites, s'il pouvait prêcher comme un Billy Graham ou un Oral Roberts ou quelqu'un, un grand orateur qui a de l'influence, il serait, oh non! Parfois, le diable se rit de ça. Il n'y prête aucune attention, pas le moins du monde. Vous avez toute la théologie que vous désiriez, une formation complète de séminaire, et le diable se contente de s'asseoir et d'en rire. Mais quand il voit cette vie, considérez ses disciples là-bas, ce jour-là, cet enfant fou qui était atteint d'épilepsie, et eux, ils disaient, « Sors de lui, démon! Sors de lui, démon! Sors de lui, démon! » Le diable assis là, il a dit, « Eh bien, ne faites-vous pas une risée de vous-même. Maintenant, vous voyez ce que vous avez fait. Jésus vous a dit, il vous a commissionné d'aller me chasser. Aucun d'entre vous ne peut le faire. » Mes frères, quand ils l'ont vu venir, celui qui marchait tranquillement, oui, oh là là, il n'avait pas besoin de rien dire. Ce démon avait déjà peur à cet instant. Il savait qu'il devait partir. C'est vrai. Car voilà une vie qui venait. Pas seulement une prédication, mais une vie. Il a dit, sors de lui. Oh là là. C'était réglé. Tranquillement, il savait de quoi il parlait. Il savait ce qu'il faisait. Et là, des voix des sept trompettes étaient... Les voix des sept étoiles, des sept messagers. Mais maintenant, regardez bien ici. Et sept lampes devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu. Sept lampes. Dessinons un peu ici le trône. Le lieu saint. L'Assemblée. Juste ici, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 étoiles, 7 lampes, 7 messagers, 7 esprits. Ce qui ne signifie pas tout à fait que Dieu se trouve en 7 esprits, mais que ce sont 7 manifestations du même Saint-Esprit. Où est le Saint-Esprit? Ici, au trône. Il éclaire dans chaque âge de l'Église. Cet âge de l'Église reflète de cette manière les voix de Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, sept. Il y avait des voix et sept lampes ardentes. Sept esprits qui sont les sept esprits de Dieu. Vous vous rappelez, il y a quelques dimanches passés, on s'est rendu là, le gros diamant. mais il est taillé de bien des façons différentes pour refléter le feu et les lumières qui s'y trouvent. C'est comme ça que Jésus-Christ est le commencement de la création de Dieu. Apocalypse 1, pas vrai? Alors, quand Dieu a-t-il été créé? Il est le commencement de la création de Dieu. Et Dieu est éternel, pas vrai? Mais quand Dieu a été créé, quand un petit bébé avait été conçu dans le sein d'une mère, une vierge, et qu'elle a commencé à former ses cellules en elle pour engendrer ce petit bébé, c'était le commencement de la création de Dieu. Car Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous et est devenu Emmanuel, Dieu avec nous, le commencement de la création de Dieu. Et dans ce grand joyau qui vient de la poussière, parce qu'il était fait de poussière, pas vrai? Il mangeait de la nourriture comme moi, il mangeait de la nourriture comme vous, de laquelle la poussière du corps, il est devenu calcium, potasse, pétrole, lumière cosmique. Mais en lui habitait la lumière éternelle. Pas étonnant que les sages aient dit à l'étoile, « Guide-nous vers cette lumière parfaite. » Il ne faisait que refléter la lumière de celui qui est la lumière parfaite. Et voilà qu'il était la lumière parfaite de Dieu, le commencement de la création de Dieu. Maintenant, en cela, il était... Comment a-t-il pu se refléter dans ces étoiles de la terre après que les mages l'aient aperçu dans le ciel et qu'elles soient devenues des esprits qui exercent un ministère ici sur la terre? Il a été blessé, le grand diamant taillé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qu'il faisait? Il reflétait. Tout homme qui se dit serviteur de Dieu et qui nie la guérison divine et sa puissance ne tire pas sa lumière de ce diamant. Il ne tire pas sa lumière de ce trône parce que cela le reflète lui. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, à travers ces sept étoiles et les sept âges de l'Église. Oh, que Dieu soit loué! Je pense qu'il est opportun pour un ministre d'adorer Dieu de la chair, avec action de grâce et louange et honneur et puissance. Oh, comme c'est réel! Combien cela réjouit mon âme au point où j'ai l'impression que je pourrais crier, courir et sauter aussi haut que je puisse sauter, parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'a changé de ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je voudrais être, mais je sais que j'ai été changé, que je ne suis plus ce que j'étais. Quelque chose est arrivé, il s'est passé quelque chose. Et de me tenir ici et de voir que cette parole éternelle est bravée tous les orages, quand ils ont tenté de brûler les bibles et tout, elle continue à briller quand même, car elle dit « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passeront point. » Ici, près de Chicago, maintenant, il y a une Bible qui est posée sur la chaire d'une église. Bien avant la Première Guerre mondiale, elle appartenait à un missionnaire, un homme qui s'était converti. Il avait voulu donner sa Bible au missionnaire. Il avait dit, « Je ne peux pas te donner celle-ci, c'est ma mère qui me l'a donnée. » Il a dit, « Quand je vais rentrer à la maison, je vais t'envoyer une. » Il est reparti outre-mer et un sous-marin allemand a fait sauter le navire. Ils n'en ont jamais retrouvé un morceau. Et deux ans plus tard, très loin là-bas sur la côte, ils ont aperçu une boîte qui flottait. Certains ont pensé que c'était peut-être quelque chose qui avait coulé. Alors, ils ont sorti la boîte et l'ont ouverte. Deux gars qui se promenaient. Et là-dedans, la seule chose qui avait survécu, c'était cette Bible qu'il a envoyé aux missionnaires. Elle est aujourd'hui posée sur une chaire ici près de Chicago, dans une église méthodiste. Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Au cours de l'inondation de 1937, cette brève petite église, quand le sol était recouvert de boue et de tout ce qui s'y trouvait, on pouvait passer au-dessus ici dans une chaloupe. Les inondations s'étaient élevées. Et bien, ce soir-là, après avoir prêché l'Évangile, ma Bible était restée ouverte sur la chaire. Quand je suis rentré chez moi, j'avais prédit qu'une inondation surviendrait. J'avais dit, je l'ai vu mesurer 22 pieds au-dessus de la rue Springfield, là-bas. Le vieux frère Jim Wishart et les autres, ils se sont moqués de moi. Et tu t'en souviens, frère George? Il a dit, oh Billy, en 84, il n'y avait que 6 pouces sur la rue Spring. J'ai dit, j'ai vu un homme descendre des cieux et prendre un bâton de mesure qu'il a placé là sur la rue Spring. Il a dit, 22 pieds. Il a dit, tu es juste excité. J'ai dit, je ne suis pas excité. C'est ainsi dit le Seigneur. Demandez-leur combien de pieds il y avait au-dessus de la rue Spring. 22 pieds auprès. Exactement. Et cette vieille Bible se trouve là et elle avait servi à la prédication ce soir-là. Il s'était mis à pleuvoir, l'inondation faisait des ravages et tout. Et cette vieille église, les sièges sont montés tout droit au plafond. La Bible est montée tout droit au plafond, entraînée par toute cette eau qui s'accumulait. La chair est montée tout droit, ils sont redescendus et tous les sièges se sont placés au même endroit. Et la Bible était posée au même endroit et toute cette eau, et elle était encore ouverte au même chapitre, au même endroit. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Comment cette Bible a fait pour flotter dans cette eau salée pendant 2 ans, sans même tâcher les mots dedans? Les paroles de Dieu sont vraies. Amen. Je me souviens qu'après ça, le vieux frère Jim Worthert était si content de ça qu'à chaque fois qu'il avait mal au bras, il avait développé un genre de problème autour de l'âge de 75 ans. Il avait du rhumatisme, la douleur le faisait souffrir là. Il courait chercher la Bible, il la ouvrait, la posait là. Une autre douleur par ici. Je suis allé un jour, il y avait tellement de Bible qu'il recouvrait que je ne fais pas voir frère Jim. Il était juste recouvert de la Bible à la grandeur du corps. Il a dit, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ça me rappelle le vieil homme qui passait me voir. Personne de sa famille n'est ici, je pense. Je l'aidais un peu, vous savez, un coup de main parce qu'il était vieux et qu'il avait besoin d'argent. Il m'a dit un jour, je partais pour le Canada. Il s'est retourné. Il venait juste de franchir la barrière. Il m'a dit, Billy, mon garçon, un de ces jours, à ton retour, le vieil homme Jim ne passera plus sur cette route ici. C'était la dernière fois. Alors, j'étais au Canada. J'ai reçu un télégramme. Il venait de mourir là-bas dans les bras de Sir Morgan. Il y a eu une crise cardiaque. Ils l'ont amené d'urgence à l'hôpital. Il l'a regardé. Il est décédé. Sir Morgan, est-elle ici ce matin? D'habitude, elle vient. Vous la connaissez tous. C'est l'une des graves cas de cancer qu'ils ont eu là-bas à l'hôpital Baptiste, alors qu'elle aurait dû mourir il y a 17 ans. Selon le registre de la clinique médicale là-bas, portant la mention « se mourant d'un cancer », il y a 17 ans, elle vit au 412 avenue Knobloch. Elle est infirmière à l'hôpital, ici. Oh, grâce étonnante qu'il est doux le son. Jim Tom Robinson, il est avocat à Louisville et nous connaissons tous Jim Tom. C'est ce qui l'a amené à croire ce message. Il est allé là-bas et son père était l'un des directeurs du personnel à l'hôpital. Il est monté, il a fait des recherches pour voir si c'est vrai qu'elle se mourait du cancer. On l'avait abandonnée, il retournait chez elle et il pensait du moins, c'est ce qu'il croyait, qu'elle était déjà morte. Et son père a examiné la chose à fond et c'était la vérité. Et Jim Tom a dit, c'est un mensonge, elle est assise juste ici, là-haut, et je peux vous conduire à elle. Oh, il est un Dieu réel, n'est-ce pas? Je suis si heureux qu'il puisse passer par-dessus nos erreurs, pas vous? Cela nous donne envie de l'aimer de tout notre cœur. Des trônes, des éclairs, quoi? 7 lampes ou 7 étoiles, appelées les 7 esprits, ce qui représente la 7 manifestations du Saint-Esprit dans les 7 âges de l'Église, aux 7 trônes de miséricorde pour les gens. Les voici, 7 trônes de miséricorde, 7 trônes, 7 églises, 7 étoiles, 7 manifestations, 7 esprits, 7 lampes. Oh là là, combien Dieu est si parfait. Chaque, c'est toujours là dans les nombres de la Bible. Les nombres de la Bible, c'est la chose la plus parfaite qu'il y ait sur la terre. On ne peut pas trouver un seul défaut dans les nombres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a aucune autre œuvre littéraire dans laquelle vous ne trouverez pas une faute avant la 3e phrase. Mais pas dans la Bible. Ils ont essayé pendant plus de 200 ans d'ajouter une phrase à la prière du Seigneur ou d'en enlever une. Elle est parfaite. On ne peut rien y ajouter ni rien retrancher. Ils ont cru qu'ils pourraient améliorer un peu la prière. Ils vont essayer de faire passer ceci dedans, de placer ça dedans ou d'en retrancher ceci. Ça ne va tout simplement pas. Vous voyez, elle est parfaite. Toutes les voies de Dieu sont parfaites. Par conséquent, nous sommes imparfaits. Mais il a dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Comment pouvons-nous l'être? Par le précieux sang de Jésus-Christ, en nous oubliant nous-mêmes et en ne vivant qu'en lui. Voilà. Combien cela est précieux. Très bien. Le verset 6 maintenant, si nous l'abordons, 7 lampes. Et devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Oh là là! Regardez ça! Des bêtes pleines d'yeux. Pleines d'yeux devant et derrière. Maintenant, attendez. Devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône, il y avait 4, et tout autour du trône, 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Bon, la mer de verre. Vous qui allez, je suis, ce n'est pas vraiment un symbole, mais je veux effacer ceci un instant. Bon. Maintenant, nous voulons étudier ceci un peu. La mer de verre est symbolisée dans l'ancien temple, car Moïse avait reçu l'ordre de Dieu de construire le temple sur la terre comme il l'avait vu dans les cieux. Tout le monde le sait, très bien. Laissez-moi dessiner un peu ici maintenant. Disons qu'ici se trouvait l'arche dans l'Ancien Testament. Très bien. La chose suivante, c'est ce qu'on appelait le Saint des Saints. Et l'endroit suivant ici, c'était l'autel qu'on appelait le lieu saint. Et juste avant ici, il y avait la mer d'Airain, comme on l'appelle. Autrement dit, c'est un endroit où les sacrifices étaient lavés ici avant d'être reçus à l'autel d'Airain ou à l'autel de bronze, là où le sacrifice était brûlé. Maintenant, nous voulons observer ça maintenant, là où cela se trouvait. Et maintenant, dans cette mer de verre, était devant le trône et devant le lieu saint. Juste, bon, rappelez-vous, les sept chandeliers d'or se trouvent ici, comme ça. Ils viennent dans une cuve, voyez? Bon, c'est lui qui reflète la lumière du lieu saint jusqu'ici. Maintenant, vous n'avez pas à écrire ça, à moins que vous ne vous vouliez, mais il y a autre chose que j'ai moi-même dessiné, je ne voulais vous partager. Mais maintenant, voyez, on appelait cela la mer d'Airain. Ce n'était pas si grand que ça. Elle était disposée d'une manière plus ou moins précise dans le temple. Elle était disposée à peu près comme ceci, ici. C'était la mer d'Airain. C'était une cuve faite d'Airain où on lavait les sacrifices. Avant que les sacrifices ne soient brûlés ou acceptés, ils devaient être lavés. Oh, n'est-ce pas que ça ferait un bon sermon, là, docteur? Oh là là! N'est-ce pas que ça m'a simplement frappé, les laver? Avant qu'un sacrifice ne soit reçu par Dieu, il doit d'abord être lavé. Comment? Pas émotionnellement, mais lavé par la parole. Maintenant, nous pourrions retourner en arrière et aller là où ce rabbin juif, quand je prêchais ce sermon sur les eaux de séparation, la vache rousse, des eaux qui coulaient sans cesse, qu'on en fait des eaux de séparation, et avant même que nous puissions venir à Dieu avec une foi véritable, nous devons d'abord passer par les eaux de séparation. Oui, monsieur. Vous devez passer par quoi? La parole. Oh, laissez-moi voir si je peux le dire d'une manière que tout le monde va le saisir. Maintenant, prenez votre pensée spirituelle. Enlevez le bonnet de combat et prenez votre pensée spirituelle maintenant, car voici venir quelque chose. Lavez avant que cela ne puisse être reçu à l'autel. Il doit d'abord être lavé par les eaux de séparation. Et maintenant, prenez avec moi en vitesse dans Éphésiens 5. Conservez votre page et revenez quelques pages en arrière dans Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 26. Afin de la sanctifier et la purifier. Il parle de l'Église, voyez maintenant. Laissez-moi revenir un peu plus en arrière. Revenons au verset 21 pendant que vous cherchiez. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous soumettant, assemblée, soumettez-vous à votre pasteur. Pasteur, soumettez-vous à votre assemblée. Si un petit clan s'élève, ne prenez parti d'aucun côté. Soumettez-vous à toute l'assemblée. Assemblée, si vous commencez un clan, soumettez-vous à votre pasteur dans la crainte de Dieu. Voyez, oh frère, femme, que chacun soit soumis à son mari, comme au Seigneur, parce qu'il est votre Seigneur. Combien savent cela, vous les femmes? C'est tout à fait vrai. La Bible l'a dit au commencement. C'est toujours pareil. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église et qui est son corps, et dont il est le sauveur. Le mari l'est aussi, vous le savez tous, vous qui êtes mariés, les adultes ou les enfants assez âgés pour connaître le cours de la vie. Très bien. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ne la méprisez pas. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'être un mari, c'est vrai? Afin de... Écoutez, le voici. Saisissez-le maintenant. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la... Ainsi, chaque adorateur qui arrivera à entrer dans ceci doit venir par la parole. Il y en a trop qui viennent autrement. Je crois aux petites histoires et ces choses dont la mère est morte il y a longtemps et qu'elle vous attend au ciel. C'est bon après que la parole ait été appliquée. Beaucoup de gens viennent à l'autel parce qu'ils veulent rencontrer leur mère au ciel. C'est très bien, vous devriez le faire. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous venez à l'autel. Vous venez à l'autel en confessant vos péchés par Christ est mort à votre place par la parole. Alors, tous les sacrifices qui ne viennent pas selon la parole ne sont pas acceptés. Pas vrai? Oh, frère, je n'aime pas dire ça. Je n'aime pas dire ça. Pardonnez-moi de le dire. C'est la raison pour laquelle Acte 19 se trouve dans la Bible. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ils ont dit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait... Il a dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Pourquoi n'es-tu pas entré par ici? Ils sont venus par un autre chemin que la parole. Elle a dit, nous avons suivi l'ordonnance, nous avons été baptisés. Jean, il a dit, ça ne marchera pas. Jean a baptisé du baptême de repentance, non pour la rémission des péchés. Et quand ils ont entendu cela, ils ont été rebaptisés. Pourquoi? Par la parole, lavé par les eaux de la parole. La parole a dit au nom de Jésus-Christ. Quiconque qui y ajoute quoi que ce soit d'autre est faux. Maintenant, mon précieux frère, je sais que c'est aussi sur bande. Maintenant, ne vous affolez pas. Laissez-moi dire ceci avec l'amour divin. L'heure est arrivée où je ne peux plus retenir ces choses. On est trop près de la venue. Voyez, le trinitarisme est du diable. Je dis que c'est ainsi dit le Seigneur. Regardez d'où ça vient. Ça vient du Concile de Nicée, quand l'Église catholique a pris l'autorité. Le mot « trinité » n'est même pas mentionné dans le livre tout entier de la Bible. Et en ce qui concerne trois dieux, ça vient de l'enfer. Il y a un seul Dieu. C'est tout à fait vrai. Maintenant, direz-vous, croyez-vous que tous ces gens, ces trinitaires, sont de l'enfer? Non, monsieur. Je crois qu'ils sont chrétiens. Mais l'heure approche, frère, où ils sont sincèrement dans l'erreur. Tout homme, n'importe où, n'importe quand, qui voudrait parler de ce sujet, venez me voir. N'importe quel ministre, évêque, archevêque, quoi que vous soyez, et ceci est enregistré, cela va tout le tour du monde. Je demande dans l'amour fraternel à toute personne dans le monde entier qui m'entend sur cette bande de venir me voir et me montrer un texte de l'Écriture ou un paragraphe dans toute l'histoire. Ça, c'est l'histoire authentique où une personne a été baptisée au nom du Père, Fils et Saint-Esprit avant qu'il se soit organisé avec l'Église catholique et je vais changer ma doctrine. Tout le monde a été baptisé au nom de Jésus-Christ. Et mes précieux frères, vos yeux sont aveuglés à ces choses. Priez que Dieu vous donne la lumière. Maintenant, si vous avez une écriture pour le soutenir, je m'attendrai à vous voir, d'avoir votre appel. Vous êtes, vous, au-delà de cette bande, vous marchez délibérément dans l'ignorance spirituelle si vous ne me défiez pas à ce sujet. Si vous voulez connaître ce qu'est la lumière, ce qu'est l'obscurité, demandez-le à Dieu. Souvenez-vous, je dis, ainsi dit le Seigneur. Si vous croyez que je suis son serviteur, si ce n'était pas selon sa parole, ce serait faux. Alors, si ce n'est pas selon sa parole, c'est votre devoir de venir me reprendre. Ah oui. Voyez ce qui arrive. Oh oui, c'est une erreur. Je crois que plusieurs milliers de trinitaires qui croient en trois dieux sont sauvés parce qu'ils ne connaissent rien d'autre. Nous allons en parler plus loin dans le message. Maintenant, n'arrêtez pas tous votre bande pour sortir de la maison, frère trinitaire. Écoutez ceci. Mais restez assis quelques minutes. Vous vous le devez à vous-même. Vous le devez à votre assemblée. Voyez, n'arrêtez pas d'écouter les bandes. Restez avec elles. Sondez-les par la parole et voyez si c'est juste. La Bible a dit, éprouvez toutes choses. Je sais que ce n'est pas populaire, tout comme Jésus, comme le message, comme toujours. Vous m'aimiez quand je venais guérir les malades et les affligés parmi vous. Vous pensiez que c'était grand. De grandes foules formaient l'Église. Maintenant, Jésus a fait la même chose jusqu'à ce qu'un jour, il devait dire la vérité. Et quand il l'a fait, même les 70 se sont détournés de lui. Il s'est tourné vers les autres, les 12, et il a dit, « Voulez-vous aussi vous en aller? » Et Pierre a dit ces paroles mémorables, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et seule la parole de Dieu est éternelle. Et trouvez-moi un endroit où Dieu a eu quelqu'un baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » Vous allez dans Matthieu 28, 19, Père, Fils et Saint-Esprit, où Matthieu a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et quiconque pense que Père, Fils et Saint-Esprit est un nom, cela montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur instruction. » Bon, pour un élève de 7e année qui dit cela aux évêques, qui écoute ceci, « Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom et Saint-Esprit n'est pas un nom. » Ce sont des titres qui se rapportent au nom de Père, de Fils, Saint-Esprit, qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous, ce n'est pas dans la colère, mais dans l'amour et le respect le plus sacré. Dans l'amour et la considération pour le corps entier de Christ, au point où je suis invité par mes frères trinitaires et dans le monde entier à aller prêcher dans leur assemblée. Mais je n'en parle jamais quand je suis parmi vous. Je veux être, à moins que vous me le demandiez vous-même, et je vais aller dans la paroisse avec vous et je vais en parler avec vous. Mais devant votre assemblée, ça les éveillerait. C'est votre devoir d'obtenir la révélation et de l'enseigner à votre troupeau. Vous êtes les bergers du troupeau. Je m'adresse au ministre. Si vous ne comprenez pas, venez, essayons-nous et parlons-en ensemble. La Bible dit, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Une mer de verre où le sacrifice a été lavé. Nous sommes lavés. Oh, n'oubliez pas cela. Nous y reviendrons après un moment. Lavé par l'eau de la parole. Alors, vous devez entendre la parole avant d'entrer là, parce qu'il n'y a qu'une seule façon dont vous approchez de Dieu, c'est par la foi, pas vrai? La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole. Elle lave notre conscience. Pas pour voir un homme, pas pour voir un père, pas pour voir une mère, pas pour voir un bébé, cela est vrai, nous allons le faire. Mais la première chose que nous devons faire, c'est d'utiliser la voix pourvue par Dieu. Nous serons lavés quand nous allons entendre la parole de Dieu. Par la foi, nous marchons. La grâce, ce que Dieu a fait pour vous, c'est vrai. Vous croyez Dieu, vous croyez en Dieu. Et dès que vous êtes désolé, vous êtes déjà pardonné. Je parlais à un frère hier, il était un peu embrouillé à ce sujet, et j'ai dit, écoute frère, si tu as dit quelque chose pour blesser ton épouse, immédiatement tu aurais de la peine pour elle. Tu serais désolé d'avoir fait ça, et tu te serais déjà repenti dans ton cœur. C'est vrai. Mais tu dois aller lui en parler. Tu dois aller lui dire, « Chérie, je suis désolé d'avoir dit ça, alors que tu t'es complètement repenti. » Maintenant, c'est comme ça avec Dieu. Un homme qui irait, il dirait, « Je l'ai blessé, ça ne fait rien. » Je vais lui dire, « Je suis désolé, mais vraiment, je ne le suis pas. » Vous êtes un hypocrite, voyez? C'est vrai, Dieu n'acceptera jamais cela. Vous devez vraiment regretter vos péchés. Alors, quand vous saurez que vous regrettez vos péchés, et ensuite vient la repentance et être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le pardon. Vous recevrez le Saint-Esprit. Voyez, c'est si simple. Dieu a fait la chose si simple. Ici, nous remarquons ici dans la mer de verre, elle était semblable à du cristal. Maintenant, la mer de verre est symbolisée, typifiée par la mer d'Airain. C'est la mer de verre au ciel. Moïse l'a vue comme une mer de verre et a fait ce qu'on appelait la mer d'Airain, un autel d'Airain, un sacrifice d'Airain, un autel d'Airain plutôt. Vous savez ce que représente l'Airain dans la Bible? Le jugement. Il a fait un serpent d'Airain. Que signifie un serpent? Le symbole du serpent signifiait le péché déjà jugé. Dans le jardin d'Éden, quand ton talon écrasera sa tête écrasera le talon. Et l'Airain représente le jugement divin. L'autel d'Airain où l'on brûlait le sacrifice. La cuve d'Airain où il était lavé par l'eau de la parole. Voyez, Élie, en son temps, est sorti et a levé les yeux et il a dit, « Le ciel ressemble à de l'Airain, le jugement divin sur une nation rejetée. » Oh là là, l'Airain, d'Airain. Maintenant, nous sommes à la cuve. Et vous avez remarqué que cette cuve était vide et claire comme du cristal. Pourquoi? L'Église avait déjà été rachetée. Or, maintenant, nous remarquons un peu plus loin, quoique quand les saints de la tribulation reviennent, nous la trouvons de nouveau remplie de feu. Saviez-vous, aimeriez-vous le lire? Tournons maintenant à Apocalypse, chapitre 15, verset 2. Et lisons, et nous voyons de nouveau ce feu de la couleur de l'Airain. Très bien. Puis je vis un autre ange. Je vis dans le ciel un autre signe, exact, grand et admirable, sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Maintenant, la colère de Dieu, regardez bien. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Maintenant, regardez. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Oh, le voyez-vous? La période de la tribulation. Oh, vous êtes pressé? Très bien, écoutez, observons quelque chose ici. Comment venons-nous? Nous devons venir, cette Église des nations, à cette parole, la mer de verre, l'eau de la parole, pas vrai? Reconnaître la parole telle qu'elle est écrite. Après cela, le sacrifice est accepté et rempli du Saint-Esprit de l'intérieur, brillant à travers la lumière de cet âge. De ceci, ici, il sort du lien saint. Pour entrer ici, il sort de l'étoile. Vous saisissez? Remarquez qu'à la fin de cet âge, Jean, quand il a vu la mer d'Airain, là, elle était claire comme du cristal. Qu'est-ce que c'était? La parole avait été enlevée de la terre, enlevée dans l'Église. Et elle était claire comme du cristal. Plus de sang. L'âge de l'Église était terminé. Maintenant, dans Apocalypse 15, et le reste de la postérité de la femme, qui étaient les saints de la tribulation, qui ont passé par la période de la tribulation, a été trouvé, regardez, se tenant sur cette mer. Et il était rempli de feu, de sang, de flammes rouges qui en jaillissaient, le feu de Dieu. Ils avaient remporté la victoire sur la bête, Rome, sur son nom, sur la lettre de son nom et sur son image, la confédération des églises. Et ils étaient sortis. Et par la prédication de Moïse et d'Élie, ces deux prophètes qui apparaîtront en Israël pour en faire sortir ce groupe de gens, ces saints de la période de la tribulation, c'est durant cette période qu'ils entreront. C'était, voyez, l'Église a été enlevée maintenant. Mais rappelez-vous que l'épouse est sur le trône. La période de tribulation, ils vivaient dans les royaumes. À l'extérieur, ils amenaient tous leurs rois, leurs honneurs, leur gloire dans la ville, comme nous approchons Apocalypse 22. Vous allez voir, si vous notez cela et la retenez, vous verrez ce que nous voulions dire quand nous allions y arriver. Nous n'avons pas le temps de saisir chaque petite chose et de nous promener d'un verset à l'autre, mais nous voulons en voir les points principaux. Et un jour, peut-être, si le Seigneur le veut, nous aurons beaucoup de temps pour en parler. Maintenant, ces saints de la période de la tribulation qui sont montés, ils avaient traversé de grandes épreuves. L'Église ne passera pas par la tribulation. Voyez-vous, ils étaient déjà dans la gloire. Et voici les saints de la tribulation, les sanctifiés qui avaient, puisque c'est ma faute et la vôtre, qui n'avaient jamais entendu la parole. S'ils l'ont entendu, ils l'ont rejeté, ils sont allés en enfer. Ils ont été chassés dans les ténèbres du dehors pour avoir rejeté la parole. Mais s'ils ne l'avaient jamais entendu, Dieu est juste. La période de la tribulation est pour eux. Maintenant, remarquez un instant. Des saints lavés par la même parole, parce que c'est le même autel, c'est la même mer de verre, et la même parole. Apocalypse 2, 5. Apocalypse 15, ou plutôt 2 à 5. Remarquez, juste une minute. Maintenant, nous ne leur avons jamais apporté la parole. C'est la raison pour laquelle ils étaient comme ça. Nous ne leur avons jamais apporté la parole. Nous allons être tenus responsables. Alors, nous ne pourrons pas atteindre tout le monde. L'Église ne le pourra pas dans cet âge qui a la vérité, parce qu'ils passeront par la tribulation. Ce ne sont pas les saints qui sont morts là-bas dans les âges de l'Église, parce qu'il a dit, ils sortent de la grande tribulation. Et la grande tribulation est encore à venir après que l'Église soit rentrée à la maison. Oh, voilà, c'est ça. Oh, j'aime ça. Et écoutez, allons un peu plus loin. Je veux voir quel genre de paroles ils ont entendues. Reprenons maintenant le verset 2 du chapitre 15. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Maintenant, voici, ils n'étaient jamais entrés, mais ils avaient entendu la parole. Ils avaient entendu la parole. Alors, écoutez, voyez quelle sorte de doctrine ils ont entendue. Voyez si elle se compare avec l'Église maintenant. Et ils chantaient le cantique de Moïse, serviteur de Dieu. C'était après le départ de Moïse. Et le cantique de l'agneau. En disant, « Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur Dieu Tout-Puissant. » Qui est cet agneau? Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des saints. Voyez comment ils le reconnaissent, qui il est, pas une troisième personne dans une trinité, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le roi des saints. Écoutez, êtes-vous prêts? Verset 4. Qui ne craindrait Seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R, majuscule, Elohim? Il ne glorifierait, qui resterait qui ne te craindrait pas et ne glorifierait ton nom? Ils ont été lavés par les mêmes eaux que celles qui vous lavent en ce moment, en entendant la parole et la foi et la puissance de Jésus-Christ, qui est le Tout-Puissant. C'est l'entière révélation au commencement. Le tout se résume dans la révélation de qui est Jésus-Christ. Dieu, fais chair parmi nous. Ton nom est grand et merveilleux. Qui ne craindrait et n'honorerait pas ton nom? Car toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Autrement dit, nous voyons que cela ne signifie pas de le recevoir. Tes jugements sont en train de se manifester. Nous sommes ici. Nous sommes lavés maintenant. Nous sommes lavés par l'eau après avoir traversé la période de la tribulation. Nous avons pris position pour toi et nous avons cru en toi. Et maintenant, nous sommes sur la mer de verre. Et nous t'honorons et te glorifions pour refléter ton Saint-Esprit. Et tes chandelles sont vraies et tes jugements sont justes. Oh là là, nous pourrions passer une semaine là-dessus. Le baptême du Saint-Esprit. Dessinons quelque chose ici à l'instant. Juste une minute, j'ai quelque chose que je veux dessiner. Bon, prenons pourquoi ne pas commencer exactement à l'endroit où nous en sommes. Maintenant, si nous remarquons, voici une belle illustration. Maintenant, ici, c'est le Saint des Saints. Très bien, ici, c'est le lieu saint. Et voici la première. Avant d'y venir, c'est la mer. Très bien. Maintenant, remarquez. Comment approchons-nous de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu qui se reflète à partir du Saint des Saints dans le messager de l'âge, du temps et dans le temple de Salomon. Ça se reflétait, ces chandelles reflétaient leur lumière dans cette cuve d'airain. Alors ici, l'ange de l'âge de l'Église se reflète dans cette eau qui est cette personne ici. Et elle reflète sa miséricorde, ses paroles, son jugement, son nom. Tout est reflété là-dedans quand vous êtes séparés en y croyant. Est-ce que vous saisissez? Remarquez comme c'est beau ici, nous en parlions l'autre jour. Regardez ici. Par conséquent, étant justifié par la foi. Très bien. Deuxièmement, après avoir été lavé, sanctifié. Et ensuite, rempli du Saint-Esprit. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Vous le voyez? Comment était son message? La justification par l'écoute. La sanctification est ce que vous faites. Et par égard de ce que vous avez fait, en signe d'appréciation de cela, Dieu vous a scellé par le Saint-Esprit. Maintenant, vous, mon frère Baptiste, je vais vous demander quelque chose. Vous dites que pouvait faire Abraham de plus que de croire en Dieu. Et Dieu lui a imputé la justice. C'est tout ce qu'il pouvait faire ici même. Il a cru à Dieu. Mais Dieu, pour accepter sa foi, il lui a donné le sceau de la circoncision et l'a scellé, montrant que Dieu avait accepté sa foi. Et si vous professez la foi en Dieu et que vous n'avez jamais été scellé par le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30, si vous voulez le noter, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellé. Et vous n'êtes pas scellé avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. C'est pour combien de temps? Jusqu'au prochain réveil? Jusqu'à notre rédemption. Le jour même de notre rédemption, il n'y a aucun moyen de s'en éloigner. Vous ne pouvez pas vous en éloigner parce que ça ne s'éloignerait pas de vous. Voyez? Car vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni le péril, ni la faim, ni la soif, ni la mort, ni rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Paul a dit, je suis pleinement persuadé de cela. C'est ça. Vous êtes scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Prenez note que ça nous ramène à dimanche dernier. De nouveau, est-ce que j'ai le temps? Je veux observer, regardez ceci. L'esprit, l'âme et le corps. Très bien. Voyez, corps, âme et esprit. Maintenant, laissez-moi effacer ça et préparer quelque chose ici pour vous. Maintenant, je vais dessiner quelque chose ici. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire dimanche dernier. Alors, je l'ai dessiné moi-même sur ce morceau de papier jaune. Je vais cela afin que vous puissiez le noter, que vous puissiez voir ce que je veux dire maintenant, vous avec vos crayons. Maintenant, ceci est le corps. Et ceci est l'âme. Et ceci est le majuscule E-S-P-R-I-T. L'esprit, le Saint-Esprit. Très bien. C'est de quoi on est fait. Si vous remarquez ici, le lieu saint, le Saint des Saints, ici, l'autel, le lieu saint. Et ici, la mer. La mer, c'est là que vous entendez la parole. La foi vient de ce qu'on entend de la parole. la séparation, la mer de séparation, la mer qui sépare. Maintenant, remarquez ceci. Il n'y a qu'une seule entrée pour arriver ici, et c'est vous qui devez venir ici en premier. Pas vrai? Maintenant, j'aurais aimé avoir de la place. J'aurais mis ici les vierges quand le souper des noces en plus. Vous voyez comment cet homme est entré ici au souper des noces. Il est entré par un autre chemin. Ici était la porte. Jésus a dit, « Je suis la porte. » Et cette table de noces était ici et les gens tout assis autour. Il y avait un homme là qui n'avait pas d'habit de noces. Et quand le roi est entré, il a dit, « Comment es-tu entré ici, mon ami? Comment as-tu pu entrer ici? » Cela montre qu'il n'était pas venu par cette porte. Il est entré par une fenêtre ou par l'arrière ou par un credo ou une dénomination. Il n'est pas passé par la porte. Parce que dans l'Ancien Orient, ils font encore la même chose. L'époux qui va se marier, il distribue les invitations et fournit la robe à tous ceux qui l'ont invité. Oh, comme mon cœur tressaille encore et encore quand j'y pense. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'invite premièrement et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. Comment avons-nous été appelés? Avant la fondation du monde, nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau afin qu'on puisse voir la lumière pour recevoir le Saint-Esprit et d'y marcher. Nos noms, quand l'agneau a été immolé, ont été mis dans le livre de vie en même temps que le nom de l'agneau y a été mis. Nous allons y arriver dans un moment. La Bible a dit, il a séduit tout le monde sur la terre dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. Remarquez, or si l'époux lui-même, lorsqu'il se tenait à la porte et l'homme présentait l'invitation, il disait, la voici, merci. Il prenait l'invitation, la déposait ici, la revêtait d'une robe pour qu'ils soient tous pareils. J'aime ça, voyez. Dans la puissance de Dieu, dans l'Église du Dieu vivant, les riches, pauvres, esclaves, libres, noirs, blancs, bruns, jaunes, se rassemblent tous. Car ils sont vêtus de la même puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Ça montre qu'ils n'étaient pas passés par la porte. Maintenant, remarquez ici. Oh, si un homme essayait d'aller dans le Saint des Saints, quelqu'un, un enseignant de la Bible, dites-moi, si quelqu'un commençait à pénétrer dans ce Saint des Saints sans passer par ici, il mourrait. Le fils d'Aaron a pris un jour un feu étranger, un feu dénominationnel. Quand cela n'était pas un feu dénominationnel, ils sont morts à la porte, pas vrai? Oui, c'était les fils d'Élie, je crois. Les fils d'Élie les ont fait entrer alors que ça représentait les fils d'Aaron qui, lui, était le sacrificateur. Maintenant, il n'y a qu'un moyen d'entrer dans le corps. Comment ce corps est-il contrôlé? Maintenant, soyez très attentifs et préparez vos crayons. Ici, c'est la porte de ce côté-ci qui entre dans le corps. Un, deux, trois... 3, 4, 5. Bon, vous l'avez dessiné. Maintenant, la première porte ici est la vue, l'odorat, l'ouïe, et le goût et le toucher, ou sentir, l'un ou l'autre, à votre choix, ça n'a pas d'importance. Or, ce sont les sens du corps, pas vrai? Combien le savent? Six sens contrôlent le corps. Bon, nous avons une âme après avoir passé par ceci. Les sens sont à l'extérieur, c'est le système extérieur. Maintenant, à l'intérieur ici, il y a un, deux, trois, quatre, cinq. Cinq attributs dans l'âme. Maintenant, vous voulez les noter? La première est l'imagination. L'imagination. La deuxième est la conscience. Et le troisième est la mémoire. Et la quatrième est le raisonnement. Et le cinquième est l'affection. Maintenant, les avez tous notés? Sinon, dites-le-moi tout de suite. Vous les avez tous notés? La vue, le goût, le toucher, l'odorat, l'ouïe, le corps, ce sont les portes d'entrée du corps. L'âme est l'imagination, la conscience, la mémoire, le raisonnement et l'affection. Ce sont les sens ou les attributs comme les sens de l'âme. Et l'âme est la nature de l'esprit qui est à l'intérieur parce que l'âme ne fait que dégager l'atmosphère de ce qui est à l'intérieur de vous. Ça prend la place de la sanctification. L'âme se situe dans la même catégorie, là. Très bien. Maintenant, tout le monde l'a pris en note. Très bien. Maintenant, à cette porte, il n'y a qu'une seule, une seule porte. qu'on appelle le libre arbitre. Vous êtes le chef de ce qui entre. Et qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est? Le corps doit être lavé, la cuve, sanctifié ici, rempli du Saint-Esprit ici. Et ceci redevient le tribunal de Dieu, où Dieu règne dans votre cœur. Et si vous faites quelque chose de mal, vous dites, « Oh là là, j'ai mal agi. » Certaines personnes disent, « Ça ne me condamne pas d'avoir les cheveux courts. » Les femmes, « Ça ne me condamne pas de porter de la manucure ou du maquillage ou quoi que ce soit. » Ça ne me condamne pas d'aller danser. Ça ne me condamne pas de dire de petits mensonges. Ça ne me condamne pas de jouer au bridge, à la soirée de bridge. Savez-vous pourquoi? Vous n'avez rien qui puisse vous condamner. Ça ne me donne pas mauvaise conscience. Vous n'avez pas plus de conscience qu'un serpent à des hanches. Alors, vous n'avez pas de conscience. Il n'y a rien à l'intérieur pour vous donner mauvaise conscience. Vous êtes du monde. Mais je vous mets au défi de laisser Jésus-Christ venir à l'intérieur ici et d'essayer de le faire une fois. Frère, vous serez si condamné de vous prendre un recul et vous détournerez la tête de cette chose, tout aussi certain que je suis ici, parce qu'il est saint. Écoutez, je cite l'Écriture, « Si vous aimez ces choses qui sont du monde, les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. » Comment ça? Le libre-arbitre. Pourquoi appelez-vous cela le libre-arbitre, frère Branham? Parce que cela ramène un homme et une femme dans la même position qu'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. Par rapport à quoi? Les deux arbres. Le libre-arbitre, celui-ci est la mort, celui-là est la vie. Le libre-arbitre, immoral, la loi du libre-arbitre. Dieu a placé le premier homme, Adam et Ève, ici même, avec la loi du libre-arbitre. Il vous place dans la même position, et le seul moyen d'arranger ça ici, c'est votre libre-arbitre. Alléluia! Votre libre-arbitre. Vous devez vouloir faire la volonté de Dieu. Vous devez vous débarrasser de votre propre volonté pour laisser la volonté de Dieu entrer, car c'est le seul canal qui mène au cœur. Oh, vous pouvez adhérer à l'Église, vous les baptistes, les presbytériens, et vous les méthodistes et les pèlerins de la sainteté, vous pouvez parvenir à la sanctification, mais vous devez vouloir faire la volonté de Dieu. Le libre arbitre, laissez le Saint-Esprit entrer ici pour produire, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ou s'ils boivent des choses mortelles, et ainsi de suite. Ces signes accompagneront ceux qui ont laissé leur volonté devenir ma volonté, et les œuvres que je fais, ils les feront aussi. J'espère que vous ne le manquez pas. Il y a le vouloir de faire la volonté de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez ici. Je parle du lieu saint, de la cuve. Voici les lumières, les chandeliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Chacun d'eux a une lumière. D'où ils tirent leur lumière? Où se reflète leur lumière? Où se reflète-t-elle? Elle ne se reflète pas ici, dans un coin, sur une certaine dénomination. Elle se reflète ici, à la parole. Ce sont les eaux de séparation. Phew! Car la repentance et la rémission des péchés, Luc 24, 49, doit être prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Comment la repentance et la rémission des péchés étaient-elles enseignées à Jérusalem? Jusqu'où? Ça doit aller dans le monde entier. Repentez-vous, a dit Pierre dans Actes 2, 38, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos votre péché. Ce message doit aller dans le monde entier. Alors viendra la fin. Alors ce sera la fin une fois que ce message va avoir été dans le monde entier. Comment ces chandeliers ici peuvent-ils refléter la lumière sur une dénomination méthodiste, presbytérienne ou pentecôtiste? Eh bien, certainement pas. Elle se reflète ici comme étant le « je suis », pas « j'étais », pas trois ou quatre personnes différentes, mais Dieu à l'intérieur, se reflétant à chacune de ces églises. Regardez dans le passé ce qu'ils ont fait. On vient juste de voir l'histoire. Ils le reflétaient tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera toujours. Celui qui était, dès que Jean en eut un premier aperçu, il a dit, « Celui qui était, qui est, qui vient, le Dieu Tout-Puissant, la création de Dieu, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin. » C'est la véritable lumière qui doit être reflétée. Le voyez-vous? Amen. Phew. Passé midi, j'ai écouté, dépêchons-nous pour que vous puissiez le copier. Je n'aime pas vous garder trop longtemps, mais je ne sais pas quand je vais vous revoir, vous voyez? Et je veux que vous saisissiez ceci, mes amis, ceci est la vie. Bon, regardez, ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai dit. Si je reflète ce genre, alors je suis... Vous comprenez mal mon cœur. Je n'essaie pas de refléter. Oh, c'est juste, vous êtes sans importance. Je n'essaie pas de faire ça. Si vous n'avez pas reçu la lumière, j'essaie de vous diriger vers une ici. Pas celui qui est ici à cette chair, celui qui est là à ce trône. Et ce trône doit venir dans votre cœur. Alors vous verrez exactement la même chose qui s'est reflétée ici. Qu'est-ce que c'est ici? C'est le reflet de ceci. Et ceci est ceci, la parole, lavée par les eaux de la parole, lavée par les eaux de séparation des choses du monde, par la parole dit qu'il est le même hier et éternellement. Il ne dit pas il est le même dans l'âge pentecôtiste, dans le temps des belles disciples, puis dans l'âge suivant, il a changé. Non, il est le même. Vous voyez, vous ne pouvez pas lui faire dire autre chose. Nous pourrions rester sur une de ces choses pendant des heures. Mais j'espère que vous le saisissez maintenant. Si Dieu vous a appelé, vous le saisirez. C'est ce que je crois. Très bien, monsieur. Bon, qu'est-ce que c'est? La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'âme, le corps, l'esprit, c'est la même chose. Maintenant, la lampe reflète la parole. La vraie parole reflète quoi? Qu'est-ce que cette lampe, si elle tirait son reflet de cette gloire de la Shekinah, elle refléterait la gloire de la Shekinah, pas vrai? Si vous êtes allé dans un séminaire, votre lumière, vous refléterez le séminaire. Si vous l'avez reçu dans un séminaire méthodiste, vous refléterez le méthodisme. Vous êtes le reflet. Si vous l'avez reçu dans un séminaire pentecôtiste, vous refléterez le pentecôtisme. Mais si vous l'avez eu dans la gloire de Dieu, près du buisson ardent, eh bien, quand Moïse est sorti de sa présence, il devait mettre quelque chose sur son visage, de sorte que les gens ne pouvaient même pas le regarder. Pas vrai? Il était rempli de la puissance de Dieu. Étienne, un homme rempli du Saint-Esprit, il essayait de l'arrêter. Eh bien, c'était comme d'essayer d'éteindre une maison en feu par un jour venteux. En éteindre le feu, une maison en feu par un jour venteux. Oh, plus il soufflait dessus, plus pire c'était. Bien, vous ne pouviez pas l'arrêter directement quand ils l'ont amené devant le tribunal du Sanhédrin. La Bible dit qu'il se tenait là, son visage, comme celui d'un ange. Maintenant, je ne pense pas qu'un ange voulait simplement dire que c'était un certain être qui était là, mais un ange sait exactement de quoi il parle. Comme tout autre ange, un messager de l'ange de l'Église n'a pas besoin d'aller vérifier ce que le séminaire en pense. Il sait ce que Dieu a dit dans sa Bible et la puissance qui se reflète pour prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas peur. Il dit exactement ce que c'est la vérité. Et Dieu se tient juste là. Il la confirme avec le même genre de signes et de prodiges et avec la même parole. Ça, c'est un ange. Étienne était là. Il a dit, « Je sais de quoi je parle. » Il a dit, « Homme au courant d'incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Il a dit, « Lequel de vos pères n'a pas tué les prophètes pour ensuite leur bâtir des tombeaux? Vous, dénomination, laquelle d'entre vous n'a pas fait la même chose? » Voyez? Construisez de grands châteaux aux murs blanchis, des morgues et ces choses par ici, et ensuite vous parlez de Dieu. C'est vous qui l'avez mis dans la morgue, c'est vous qui l'avez mis dans la tombe, c'est la chose même qui l'a mis dans la tombe là-bas. C'était une grande église comme un château blanc, la dénomination, les pharisiens et les sadducéens qui l'ont mis dans la tombe et qui ont ensuite essayé de lui construire un monument commémoratif. Laissez-moi vous dire que Christ est un être vivant, ce n'est pas quelque chose qui est mort, il est quelque chose qui est ressuscité des morts et vivant au siècle des siècles. Oh, frère, bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça reflète quoi? Ça reflète d'ici, qu'est-ce que c'est? Cela ferait, quel est son véritable reflet? Ensuite, la première chose que ça reflèterait serait son nom. Pas vrai? Ça reflèterait son nom. La chose suivante qui serait reflétée serait sa puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça reflèterait tout ce qu'il est. Donc, si ceci reflète à cet âge-ci tout ce qu'il était, alors il est le même. Phew! La gloire! Gloire! Qu'est-ce que c'est? Cela le reflète tel qu'il était, tel qu'il est et tel qu'il sera toujours, parce qu'elles viennent directement du trône de Dieu. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu, la même puissance, la même gloire, le même en toutes choses. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, frère, allons juste un peu plus loin. Bon, prenons le restant du verset 6 ici du chapitre 4 J'ai noté quelques commentaires à ce sujet et je veux me dépêcher à y parvenir si je peux. Maintenant, le reste, après avoir terminé ce verset, cela se répète en disant ce qu'ils ont fait. Voyons si on peut voir ça. Vert, mer de verre, maintenant nous savons ce que c'était, au milieu du trône, quatre êtres vivants, les bêtes. Bon. Maintenant, combien ont une version révisée de la Bible? Dans votre version révisée, c'est écrit « être vivant ». Eh bien, je me demandais ce roi Jacques a pu dire « vivant », c'était quatre bêtes. Eh bien, je me suis procuré un dictionnaire grec et je suis retourné dans le dictionnaire biblique pour voir ce que ça signifiait. Bon, voici ce qu'il en est. Maintenant, soyez très attentifs. Le mot traduit ici, maintenant, notez-le pour que vous puissiez le chercher aussi pour être sûr. Vous voyez, je veux que vous le notiez, que je vous dis, si vous pouvez, vous voulez. Très bien. La version révisée dit être vivant. Maintenant, regardez. Et il y avait quatre bêtes remplies d'yeux devant et derrière. Et ça continue en décrivant les bêtes, que nous verrons dans une minute. Maintenant, la bête ici est représentée. Avez-vous une note inscrite en marge dans votre Bible sur les bêtes? Si oui, lisez cette note en marge. Je remarque que le docteur Schofield ici l'a noté dans la sienne. La bête veut dire ce qu'il y a ici. Cela dit « être vivant ». Oh là là! Maintenant, observez. Le mot grec là, c'est « Z-O-O-M ». Ou Z-O-O-N, c'est double. Maintenant, en grec, ça s'appelle zoon, ce qui signifie un être. Maintenant, il n'en est pas ici. Si vous voulez le lire maintenant, nous n'avons pas le temps, je m'apprêterai à le lire, mais je ne l'ai pas fait. Notez Apocalypse 11, 13 et 17. Maintenant, voilà où est bête. Les chapitres d'Apocalypse 11, 13 et 17 utilisent le mot bête dans le même sens, mais la bête, là, l'interprétation est T-H-E-R-I-O-N, Tyron. Le mot grec Tyron, qui signifie une bête sauvage et indomptable. Tyron, cela signifie une bête sauvage et indomptable. Mais Zoon signifie un être. Vous voyez? Quatre êtres vivants, Zoon, non pas les bêtes sauvages, Therion, mais Zoon, êtres vivants. Et Therion, c'est sauvage et indomptable. Autrement dit, si vous regardez au chapitre 11, la bête de Rome, le chapitre 13, les États-Unis, le chapitre 17, et les États-Unis et Rome. Des églises dénominationnelles consolidées avec le catholicisme faisant celle d'elle une non-convertie, pas domptée par l'Évangile. Phew! Indomptée. Dieu soit béni, nous venons de la grande église méthodiste, la dénomination baptiste, presbytérienne, pentecôtiste. Nous savons de quoi on parle, personne nous conduit, va nous dire quoi faire. Voilà, indompté, non converti, insensible, blasphémateur, calomnateur, intempérant et ennemi des gens de bien. Ayant la forme de... Lisez tout ça maintenant et j'aimerais décortiquer cette chose tout de suite, mais pour que ce soit sur cette bande de toute façon, mais nous n'avons pas le temps de le faire. Maintenant, vous comprenez combien comprennent, dites Amen. Vous voyez, ce sont, qu'est-ce que Zoon, Z-O-O-N? Les êtres vivants, ça se prononce peut-être Zoon, Z-O-O-N. Comment vous diriez ça? Zoon, je dirais Zoon. Et Therion est T-H-E-R-I-O-N. Therion, vous voyez, ça veut dire bête indomptable, sauvage, féroce. C'est ce que c'est bête. Prenez votre dictionnaire grec et cherchez-le et voyez si ce n'est pas le même mot. Regardez-là et vous le verrez. Prenez votre manuel grec. Prenez votre emphatique dialogue. Maintenant, vous voyez si ce n'est pas vrai que c'est vrai, que ça signifie une bête indomptable dans Apocalypse 11, 13 et 17. Et ici, dans Apocalypse 4, cela signifie un être vivant, pas une bête. Mais c'est appelé une bête, mais ce n'est pas. Même chose dans Ézéchiel 1, 8, 1 à 28 plutôt. Peut-être que nous allons y venir dans un instant, très bien. Une bête indomptable, non convertie et sauvage, indomptable. Mais ce sont des êtres vivables, que ce sont-elles, ce ne sont pas des anges. Je vais vous lire, lisons Apocalypse 5, juste sur l'autre page. L'Apocalypse 5 et le verset 11. Et je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges, anges au pluriel, autour du trône, et est une conjonction, et des êtres vivants et des anciens, voyez, et une conjonction, voyez, ils n'étaient pas des anges ni des anciens, c'était des êtres vivants au trône. Oh, n'avez-vous pas ça? Des êtres vivants. Ce ne sont pas des anges parce que ça le prouve ici, vous voyez. J'ai regardé, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des bêtes et des anciens. Ah, il y a trois catégories différentes ici. J'espère que vous avez tous saisi ce système maintenant. Maintenant, je vais vous montrer. Il y a trois catégories ici. Trois espèces différentes maintenant. Regardez autour du trône. Voici le trône. Maintenant, la première à ce trône, ce sont quatre êtres vivants. Et puis, il y a 24 comme ça, anciens assis sur le trône. Sur leur trône, de petits trônes en dessous. Et autour de ceci, il y a de grandes armées d'anges autour du trône. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont tous différents les uns des autres. Voici les anges ici, les anciens, et ici, les êtres vivants. Ne changeons pas de sujet pour une minute. Gardons-le juste là, une minute. Des êtres vivants. Que sont-ils s'ils ne sont pas des anges ni des hommes rachetés? Que sont-ils? Aimeriez-vous le savoir? Voici mon interprétation. J'espère qu'elle est bonne. Je crois qu'elle l'est. Ce sont les gardiens du trône de Dieu. Maintenant, nous allons effacer ça juste dans quelques instants. Vous voyez, ce ne sont ni des anges, ni des hommes. Ce ne sont pas des bêtes sauvages, ce sont des êtres vivants. Maintenant, voici le trône de Dieu. Et ceux-ci sont ses gardes. Lisons-en un peu plus et nous allons voir dans quelques minutes. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu ou les gardes de Dieu, de son trône. Et prenons, attendez une minute encore, revenons à Ézéchiel. J'ai noté ces choses ici, je n'aime pas les laisser de côté, je sais que c'est un... Revenons à Ézéchiel, le chapitre 1, et commençons par le verset 12 jusqu'à 17 pour un instant. Chacun marchait droit devant soi. Maintenant, nous allons regarder ça dans quelques minutes et rappelez-vous de ce verset 7 ici. Regardez à quoi elle ressemblait dans le verset 7 du même chapitre de l'Apocalypse. Les quatre. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant était la face d'un homme, les quatre êtres vivants étaient semblables des aigles qui volent, le quatrième être vivant semblable à un aigle qui vole. Maintenant, quand Ézéchiel a vu la gloire de Dieu, il a vu la même chose que Jean. Vous vous rappelez dimanche dernier comment nous avons vu la gloire de Dieu et vu la photo qu'il a fait prendre avec nous? Vous vous souvenez de ça? La gloire de Dieu, la même chose qu'Ézéchiel a vue, la même chose que Jean a vue. Le voilà aujourd'hui, cela fait de Jésus-Christ le même qu'au temps d'Ézéchiel, la même chose qui était sur la terre, le même Dieu qui est ici avec nous aujourd'hui, le même hier aujourd'hui éternellement, celui qui était, qui est et qui vient, l'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit, la mère des reins, la parole, le sanctificateur de notre âme et le remplisseur du Saint-Esprit, la même chose, vous voyez, exactement pareil. Maintenant, regardez ceci. Très bien. Et l'esprit, peu importe où qu'ils allaient, maintenant, poussaient à aller. Ils marchaient. Ils ne se tournaient point dans leur marche. Ils ne pouvaient pas se tourner. S'ils allaient par là, ils se déplaçaient comme un homme. Par là, ils se déplaçaient comme un aigle. Par là, ils se déplaçaient comme un bœuf. Par là, ils se déplaçaient comme un lion. Ils ne pouvaient pas reculer. Ils devaient aller de l'avant. Peu importe la direction, ils allaient. Chacune des bêtes. Or, que signifie une bête dans la Bible? Une puissance. Très bien. Ça veut dire une puissance maintenant. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait de la lumière. C'est Dieu. Du feu sortait la lumière, la lumière cosmique, maintenant la lumière éternelle. Et les animaux couraient et venaient. Voyons voir. Les animaux couraient et revenaient. Et comme la foudre, je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre près des animaux devant leurs quatre faces, à leur aspect et à leur structure, ses roues semblaient être chrysolites et toutes les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient telles que chaque roue était au milieu d'une autre roue. Qu'est-ce que ça symbolise, Frère Branham? Qu'est-ce que c'est? Cela signifie que ces gardes étaient l'arche de Dieu. Ils étaient en chemin, se déplaçant sur des roues quand Ézéchiel les a vus, mais quand Jean les a vus, ils étaient déjà arrivés dans leur juste position dans le ciel. L'arche de Dieu était sur la terre, se déplaçant sur des roues, comme il l'amenait d'un endroit à l'autre. Cela veut dire qu'elle voyageait. Ils l'ont transportée tout le long de la désert et jusqu'au temple, et ainsi de suite. Mais maintenant, elle est reçue, car l'âge de l'Église est terminé. Elle a été reçue dans la gloire, voyez? Elle est stationnée maintenant au ciel, avec tous les anges et ces choses qui l'entourent. Nous les voyons après un moment en train d'enlever leur couronne et tomber sur la face en lui donnant gloire, voyez? C'était les gardes de Dieu du temple de l'arche. Maintenant, souvenez-vous, les gardes de Dieu de l'arche ou du propitiatoire. Maintenant, souvenez-vous-en, combien Jean en a vu combien? Quatre. Combien en a-t-il vu? Il a aussi vu quatre êtres vivants. Maintenant, regardez, ils ont tous les deux eu la même vision. Et quatre est le nombre de la terre, le saviez-vous? Combien savent maintenant, avant que nous abordions cela, que quatre est un nombre terrestre? Bien sûr, comme les quatre Hébreux, c'est une terre, c'est un nombre de la terre de délivrance. Délivrance. Maintenant, gardez ça à l'esprit, la délivrance, parce que je vais frapper là-dessus très fort, un petit instant. Voyez, la délivrance. Alors, il y avait trois enfants Hébreux dans la fournaise ardente, mais quand le quatrième est arrivé, ça a été la délivrance. Lazare était dans la tombe depuis trois jours, mais quand le quatrième est arrivé, il a été délivré. Quatre est le chiffre de délivrance de Dieu, ce qui montre que ces êtres devaient avoir quelque chose à voir avec la terre. J'espère que vous n'êtes pas trop affamé maintenant. J'espère que votre appétit spirituel est un peu plus grand que celle du naturel maintenant. Voyez? Très bien. Remarquez, ils ont les yeux dans Ézéchiel ici, devant, derrière et à l'intérieur. Lisons-le, regardez ici, voyez ici, je crois qu'il parlait ici des bêtes, quatre faces comme un aigle et des ailes remplies d'yeux dehors, dedans. Regardez ici, les quatre êtres vivants et chacun avait six ailes. Ils volaient et ainsi de suite, ils avaient les yeux en dehors, en dedans et derrière. Cela fait référence à leur intelligence. Ils savaient ce qui était, ce qui est et ce qui va venir. Car ils étaient directement au trône, si près qu'ils n'étaient même pas humains. Les gardes du temple, ou non pas des gardes du temple, les gardes du temple sont les 144 000, mais ceci est la garde du propitiatoire, les gardes du trône. Le trône juste à côté de celui de Dieu, les êtres vivants, à côté de Dieu, qui se tiennent là. Leur intelligence, ils savent ce qui était, ce qui est, ce qui va venir. Ils avaient des yeux en dehors, démontraient ce qu'ils pouvaient voir, ce qu'ils allaient venir, des yeux en dedans. Ils connaissaient tout maintenant et des yeux derrière qui savent ce qui était, qui est, qui va venir, reflétant tout au long des âges de l'Église, celui qui était, qui est et qui va venir. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Retenez-les maintenant. Nous allons dessiner cela sur tout le tableau dans quelques minutes. Regardez bien. Bon, une minute. Cela révèle leur intelligence et montrait qu'ils savent, ils connaissaient tout le futur, le présent et le passé, et tout à ce sujet. Et là, ils étaient infatigables. Ils ne se fatiguaient jamais. Ils n'ont rien à voir avec l'homme. Lui, il se fatigue. Mais ils étaient infatigables. Ils chantaient « Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Saint, 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 toute la journée et toute la nuit, pendant tous les âges, Saint. » Revenons un peu en arrière pour une minute. Retournons en arrière. J'ai une écriture en tête, Ésaïe 6, rapidement. Observez, Ésaïe a vu exactement la même chose. Toutes les visions du Seigneur, c'est ce que dit. Si les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement des visions bibliques, alors elles sont fausses. Si elle reflète ou toute révélation qui fait Dieu autre chose que ce qu'il a toujours été, c'est une fausse révélation. Toute l'Église est bâtie sur cela. Matthieu 17. Voyons Ésaïe, le chapitre 6. Ce jeune prophète s'était reposé sur le bon roi. Il lui avait acheté toutes sortes de beaux vêtements. Et c'était un prophète. Il s'entendait bien partout. Mais un jour, le roi est mort. Alors, il a dû se débrouiller tout seul. Alors, il est allé au temple pour prier parce qu'il a commencé à se retirer de là. Il se trouvait à la place du roi. Alors, pour avoir le bon vieux roi était un homme bon et saint. Mais il est sorti et a vu comment les gens vivaient. Alors, il est allé dans le temple. Maintenant, écoutez. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Gloire! C'est quoi les pans? Les voici, les anges, des êtres, ces pans qui le suivaient. Les pans sont ce qui suivent à l'arrière, voyez? Les pans de sa robe remplissaient le temple et des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées. Toute la terre est pleine de gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. » Oh là là, oh là là. Cela montre que ces visions étaient exactement la même pour chacun de ces hommes. Saint, saint, saint. Ils sont infatigables jour et nuit. Saint, saint, saint est le Seigneur. Revenons-y un instant ici pour nous assurer que nous avons bien compris qui sont ces êtres. La première fois que ces gardes ont été mentionnés, c'est dans la Genèse. Alors, souvenez-vous, tout ce que nous prêchons doit se trouver de la Genèse à l'Apocalypse. Si vous avez des questionnements, venez me les poser. Vous voyez, ça doit être toute la Bible. Et pas seulement une partie, parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il était dans la Genèse, il l'est aujourd'hui. Il était dans le Moyen Âge. Il est toujours le même. Vous voyez, maintenant, dans la Genèse, quand c'est chérubin, c'est ainsi que je les ai trouvés. J'ai dû revenir en arrière pour découvrir ce qu'il était au début. Prenons Genèse 3, 24. Juste un instant. Maintenant, Genèse, le chapitre 3 et le verset 24. Vous aimez ça? Très bien. Bon, commençons au verset 22. J'aime vraiment ça. C'est quelque chose que je vais ajouter ici, juste un petit bonus, mais ça pourrait faire beaucoup de bien un jour. Et le Seigneur dit, « Voici l'homme est devenu l'un de nous. » Maintenant, mes précieuses et chères sœurs bien-aimées, permettez-moi de le dire comme ceci. Ne pensez pas que je jette un discrédit sur la loyauté et le joyau précieux et gracieux de la féminité. J'essaie de montrer ici ce qu'une femme, s'il vous plaît, et à vous sur les bandes, vous les femmes qui allez écouter cette bande, je ne cherche pas à me moquer de vous. Je ne suis qu'un serviteur du Seigneur pour apporter la lumière. La chose la plus vile, la plus immorale et la plus souillée sur terre est une femme quand elle est méchante. Et le joyau le plus précieux qu'il y ait pour un homme, en dehors de son salut, c'est une femme qui est bonne. Et je parle de celle qui est vile, immorale, dégradée. Et je vais vous montrer ici même, pendant que nous y sommes, autant que vous montrer pourquoi, que la Bible enseigne aux femmes à ne pas être prédicateurs, des pasteurs, des enseignants ou quoi que ce soit d'autre dans l'Église. Maintenant, écoutez bien ceci. Et le Seigneur dit, « Voici, l'homme est devenu l'un de nous. » Maintenant, il n'a jamais dit que la femme était devenue comme l'un. L'homme est devenu comme l'un. Pour connaître le bien et le mal, la femme ne l'a pas fait. Elle a été séduite, vous voyez. Paul a dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ou de prendre quelque autorité que ce soit, mais car Adam a été formé en premier, ensuite Ève. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme a été séduite. Alors, elle n'est pas devenue l'une de Dieu. Elle ne sait pas faire la différence. Elle a été séduite. Est-ce que vous saisissez? Si oui, dites Amen. Alors, le Seigneur dit, voici l'homme est devenu l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Par conséquent, le Seigneur le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il fut tiré. C'est ainsi qu'il chassa Adam. et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée volante, flamboyante. Voyez les quatre bêtes, il n'y a que quatre directions possibles. Voyez l'est, le nord, l'ouest et le sud. Ces chérubins avaient une épée flamboyante à la porte du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie. Car si l'homme parvenait à s'emparer de l'arbre de vie, alors il pouvait vivre éternellement. Et ces chérubins mentionnés précédemment avaient été placés à la porte est du jardin vers quatre directions. J'aurais dû faire cela un peu différemment. Je ne peux pas le faire correctement selon les ordres de Dieu et de toute cette manière-là, mais je voulais juste pour que vous sachiez ce que je veux dire. Il y a le jardin d'Éden. Et voici la porte juste ici. Elle s'ouvre ici, vers l'extérieur. Et à cette porte, il y avait les chérubins, des chérubins. Et souvenez-vous, ça ne dit pas un chérubin, ça dit des chérubins. Des chérubins étaient placés là pour garder quoi? L'arbre de vie. C'est ce qu'ils devaient garder, le chemin de l'arbre de vie. Le chemin qui est le chemin. Qui est le chemin? Tout cela se reflète-t-il? Ici, le lieu saint. Ici, les chérubins. Maintenant, regardez, notez tout cela. Ici, le saint, saint, ce saint des saints, le saint des saints, c'est le lieu saint. Et ici, la mer. Ici, la lumière, les chandelles, c'est sept qui reflètent la lumière d'ici à ici, à ici, à ici, à ici, à ici, à ici. Vous voyez? Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle garde et reflète avec le feu de Dieu le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez, ça ne peut pas venir d'ici, d'un séminaire presbytérien ou un séminaire pentecôtiste. Ça doit venir d'ici. Ça doit refléter la lumière. Très bien. Remarquez, ces chérubins que Jean a vus ici devaient avoir de l'intérêt pour garder l'arbre de vie. Donc, ils doivent avoir de l'intérêt pour les êtres humains. Vous lisez la Genèse et retournez à la Genèse. Ils gardaient l'arbre de vie. Ils le gardaient, le chemin de la vie. Le chemin de la vie. Comment est le chemin? Jésus a dit, « Je suis ce chemin. Je suis ce pain qui vient de Dieu du ciel. Si un homme mange ce pain, il vivra éternellement. Maintenant, il y a un moyen de revenir à cet arbre de vie. Vous saisissez? Maintenant, cela, je veux le montrer et rendre cela clair, que c'est un autel. Maintenant, cela devait être un autel dans le jardin d'Éden. Je vais vous dire pourquoi. Vous vous souvenez que Caïn et Abel sont venus ici pour adorer? Cela montre donc que l'autel de Dieu a été déplacé et placé ici au jardin d'Éden et que la seule façon de retourner en Éden est par l'autel. Vous revoilà encore, voyez? De retour en Éden par l'autel. Et ils devaient garder le chemin, le garder afin qu'ils ne puissent pas y retourner avant que cet autel soit couvert de sang. Oh Dieu, les gens ne peuvent-ils pas le voir? Voyez, rien d'autre que le sang. Il doit y avoir là une expiation, un propitiatoire. Cet autel de jugement doit devenir un propitiatoire. Et quand cet autel, si le sang est retiré, il y aura au jour du jugement le feu de la colère de Dieu pour garder à nouveau cet arbre. Une seule chose entrera à nouveau par cette porte de l'Éden, ce sera par le sang de Jésus-Christ. Vous le voyez? Maintenant, remarquez. Oui, maintenant, Caïn. Oh, ici, il y a Caïn. Et ici, il y a Abel. Abel, très bien. Maintenant, les deux garçons sont venus à cette porte pour adorer. Pas vrai? Donc, ça devait donc être l'autel de Dieu. Pas vrai? Et devant cet autel, ils ont construit un substitut, un autre autel. Voici le véritable autel de Dieu. Il est dans le cœur de l'homme. Puis il y a un autre autel ici en bas qui représentait le Saint des Saints dans le lieu saint. Oh, j'ai envie de parler en langue. Oh là là, la gloire, ne voyez-vous pas que c'est parfait? Remarquez bien. Oh, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que je ne trouve pas assez de mots dans mon propre dialecte anglais pour exprimer ce que je ressens. Voyez, quelque chose doit l'exprimer. Comme Frère Roux, un diplomate du président d'environ 4 ou 5 présidents différents, il a dit, « Oh, Frère Branham, un soir, je suis venu à la réunion. » Il a dit, « Je ne savais pas quoi faire. » Il a dit, « J'étais là. » Il a dit, « Oh, j'ai aimé le Seigneur toute ma vie. » Il a dit, « J'ai été un, je pense, épiscopalien. » Il a dit, « Je pensais connaître le Seigneur. » Il a dit, « Un soir, j'ai regardé autour de moi et je ne savais pas quoi faire. Je n'aurais pas rien fait pour le monde. » Mais elle a dit, « J'ai entendu la parole sortir. » Oh, cela a commencé à agir. Il a dit, « J'ai commencé à marcher de long en large, de l'extérieur de la tente. » En marchant de long en large, il a dit, « Immédiatement, je ne pouvais plus attendre d'arriver à la porte. Je rampais sur celle-ci quand l'appel à l'hôtel a été fait. Et j'ai couru à l'hôtel, je me suis retourné. J'ai dit, « Seigneur, je suis un pécheur. » Il a dit, « Là, il m'a rempli de son Saint-Esprit. » Il a dit, « Je parlais 8 langues différentes parce que c'est un diplomate. » Voyez. C'est un, il est le diplomate du président et toute la région de Woodward-Wilson jusqu'en bas. C'est un diplomate pour chacun de nos présidents, un diplomate étranger qui peut parler n'importe quelle langue étrangère. Il dit, je connais pratiquement toutes les langues écrites connues dans le monde. Mais il a dit, j'étais si rempli de gloire que je ne pouvais plus utiliser aucune d'elles pour le louer. Alors le Seigneur m'en a donné une nouvelle du ciel pour le louer. Oh! Ouh. Voilà. Ils gardaient cette porte. Caïn et Abel, ils sont venus pour adorer. Ainsi, ça devait être un autel qu'ils gardaient. Pas vrai? C'est chérubin. Depuis, remarquez qu'il y a une autre preuve. Caïn, regardez la Bible maintenant. Je voudrais que vous le preniez, mais ça, peu importe, c'est dans la Genèse. Très bien. Regardez. Caïn est sorti de la présence du Seigneur par la porte du jardin. Alors, la présence du Seigneur devait être à l'autel et l'autel était à la porte. Gloire. Oh! Très bien. C'est la demeure de Dieu à son autel. Maintenant, Caïn est sorti de la présence du Seigneur, de ce lieu. Vous voulez le noter? Genèse 4, 16. Vous voulez le noter? Bon. Maintenant, vous avez tout noté, n'est-ce pas? Bon, j'ai quelque chose d'autre que j'aimerais dessiner ici, juste un instant. J'espère juste que vos haricots ne brûleront pas ou quoi que ce soit sur votre... Maintenant, remarquez, laissez-les roussir, c'est très bien. Ils vont périr de toute façon. Que notre pensée soit ici, c'est la chose qui est véritable. Moïse a été ravi au ciel. Moïse a été ravi de la terre au ciel et a vu l'autel de Dieu, pas vrai? J'essaie de vous prouver ce que je veux dire. Vous savez ce que j'essaie de faire, n'est-ce pas? Très bien. Il est monté dans la présence de Dieu. Et quand il est descendu de la présence de Dieu, il a dit, Dieu a dit à Moïse, fais tout sur la terre d'après le modèle du ciel. Pas vrai? Très bien. Bon, et lorsqu'il a fait l'arche de l'Alliance, il a mis 2 chérubins pour garder l'arche. Vous voyez ce que c'est? C'était le temple. C'était l'autel, les gardes du trône. C'est 2 chérubins qui a dit, fais-les des reins et mets leurs ailes qui se touchent comme ceci. Car c'est exactement ce qu'ils avaient vu dans le ciel. C'est exactement ce que Jean avait vu dans le ciel. Ces 4 chérubins des 4 côtés de l'arche du trône dans le ciel. Ils étaient les gardes de l'arche. Des chérubins, des gardes du propitiatoire. Si vous voulez lire cette écriture, nous n'avons pas le temps de la voir. Notez Exode 25, 10 à 22. Maintenant, ils gardent le propitiatoire quand Dieu est dans sa gloire de la Shekinah. Où était la gloire de la Shekinah? Au propitiatoire, pas vrai? Ils gardent cette gloire de la Shekinah. Écoutez, mes amis, alors ça montre que tous les vauriens ne peuvent pas venir ici et s'en emparer. Vous devez être préparé avant d'entrer dans la présence de cela. Regardez Aaron, en type. Avant, bon, vous souvenez-vous, l'assemblée en ce temps-là ne pouvait même pas l'approcher d'aucune façon. Mais quand Aaron entrait, combien de fois devait-il y aller? Une fois par an. Comment avait-il? Il devait porter certains vêtements fabriqués par certaines mains, un type particulier de vêtements. Il devait être habillé de cette façon. Il avait une grenade et une clochette qui, chaque fois qu'il marchait, jouait « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Il s'approchait du propitiatoire avec le sang. Il fallait qu'il soit oint d'une huile parfumée, d'un parfum fait de la rose de Saron. Et Jésus était cette rose de Saron. Et remarquez, une rose est une belle chose. Elle a du parfum en elle, mais avant que le parfum puisse sortir, la rose doit être écrasée. Alors, le parfum est pressé de la rose. Jésus, dans sa vie, qui était la plus belle vie jamais vécue, mais il ne pouvait pas rester ainsi parce qu'il lui fallait oindre son Église pour approcher de sa sainteté. Alors, sa vie a été écrasée et le même Saint-Esprit qui était sur lui est mis sur l'Église. Et il fait de lui-même le même hier, aujourd'hui, éternellement. La rose de Saron, le parfum qu'il dégage. La personne qui s'approche de ce Saint des Saints doit être oint du même Saint-Esprit et alors qu'il marche, saint, 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 et le pas un cigare dans la bouche, saint, pas avec le col tourné, saint, 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 revêtu de la sainteté de Jésus-Christ. Comme tu es merveilleux, oh! Maintenant, le propitiatoire. Or, le propitiatoire est dans le cœur, régnant où brille la gloire dans tous ses enfants, la gloire de la Shekinah dans le cœur humain. Ici est le cœur humain, pas vrai? Est-ce le propitiatoire? Comment pouvez-vous parvenir à cela par ces différents systèmes? Par le libre-arbitre? Le libre-arbitre, il entre ici et par là, puis en sort quoi? La gloire de la Shekinah. Qu'est-ce que la gloire de la Shekinah? C'est la présence de Dieu. Et quand un homme marche ou une femme, il reflète la gloire de la Shekinah. Il ne va pas dans des tanières de jeu et se comporter n'importe comment et sortir ici et nier la parole. Peu importe ce que les gens disent, il a le cœur centré sur une chose, Dieu. Et s'il est vraiment appelé de Dieu, alors Jésus-Christ se reflète à travers lui dans la gloire de la Shekinah, faisant les mêmes choses qu'il a faites là-bas, manifestant le même évangile, prêchant la même parole se manifestant dans la même mesure qu'alors, comme c'était à la Pentecôte. C'est encore la même mesure. Oh là là! Le propitiatoire. Ézéchiel et Jean ont vu les mêmes choses. Maintenant, remarquez, nous allons bientôt terminer dans très peu de temps. Bon, voici ce que je veux que vous saisissiez. Oh, s'il vous plaît, ne le manquez pas. Maintenant, combien savent que ces chérubins étaient des êtres vivants et non des bêtes? Elles étaient un ordre supérieur. Maintenant, est-ce qu'un ange est d'un ordre supérieur à un homme ou d'un ordre inférieur? Très bien, monsieur. Quel est le plus grand, un fils de Dieu ou un ange? Le fils de Dieu. Lequel Dieu écouterait-il le plus? Un ange debout devant lui l'implorant pour quelque chose ou l'un de vous l'implorant? L'un de vous, voyez-vous, parce que vous êtes des fils et des filles. Eux, ce sont des serviteurs, voyez? Ce sont des serviteurs et vous êtes des fils et des filles. Alors, vous avez quelle autorité vous avez? Nous avons juste peur de l'utiliser. Maintenant, je veux que vous remarquiez ici, c'est magnifique. Oh là là, laissez-moi continuer ici et sauter un peu de ceci pour que je puisse arriver à ceci. Prenez vos crayons maintenant. Voici ce que je voulais vraiment que vous dessiniez. Peut-être que je ferais mieux de le réduire un peu. Bon. Pendant qu'Israël faisait route, quand ils ont campé, maintenant, surveillez de près. Ils ont campé. Un, deux, trois, quatre. Non, je crois que je me trompe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ainsi qu'il campait autour du propitiatoire. Maintenant, je sais, vous le savez tous, vous avez regardé et lu l'Ancien Testament. Maintenant, du côté est. Du côté est. Juste ici, je vais l'écrire pour que vous soyez sûr de le saisir. À l'est. L'est, c'était toujours Juda. C'est la porte. J-U-D-A. Juda. Et avec Juda, c'était le chef de trois tribus avec leur bannière. Trois tribus avec leur bannière. La bannière de Juda. Rappelez-vous, combien ont vu les 10 commandements? Les 10 commandements de Cécile de Mille. Très bien. Où vous le lisez ici même dans l'Écriture là plutôt. Juda était du côté est. Très bien. Du côté ouest, ici en bas, Maintenant, notez-le, lisez-le juste, c'est dans l'Exode et ainsi de suite, quand ils sortent, il y avait Éphraïm, E-P-H. Il avait trois tribus avec leur bannière. Très bien, Éphraïm. Puis, du côté sud, il y avait Ruben, R-U-B, avec trois tribus et leur bannière. Et du côté nord, il y avait Dan. Dan, avec trois tribus et leur bannière. Très bien. Alors, c'est comme ça qu'ils campaient. Bon, souvenez-vous, lisons maintenant dans l'Écriture pour saisir ceci exactement comme il faut. Je vais commencer au verset 7. Et là, être vivant était semblable à un lion, et le second à un veau ou un jeune bœuf. Et la troisième être vivant était semblable à la face d'un homme, et les quatre bêtes étaient, le quatrième être vivant était comme un aigle qui vole. Les quatre êtres vivants avaient chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui était assis sur le trône, ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » Bon, maintenant regardez, du côté est, il a vu quel genre de face. Si vous remarquez, c'était un lion, L-I-O-N. C'était la bannière. C'était là. C'était la bannière standard de Judas. Parce que Jésus est sorti de ses vrais, il est le lion de la tribu de Judas. Maintenant, combien ont déjà vu le zodiaque? Beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, l'étoile, voyez, c'est la première Bible de Dieu. Alors, ça commence par quoi? Le premier chiffre du zodiaque, le premier signe, c'est la Vierge, par eux. Et quel est le dernier? Léo, le lion, la première venue et la seconde venue de Christ, là-dedans. Ils ont le cancer croisé ou l'âge croisé, est juste là, et il y a les poissons croisés, c'est-à-dire l'âge du cancer, et nous vivons en plein dedans. Et remarquez, dans la pyramide, quand il l'a bâti du temps d'Enoch, toutes les pierres qui s'y trouvaient, ils pouvaient mesurer ces choses avec précision et prédire les guerres, ces choses. Tout a été achevé à l'exception de la pierre principale. Pourquoi? Avez-vous remarqué sur votre billet $1? Sortez-le et regardez, le sommet n'y est pas. Pourquoi il n'y a jamais été posé? Christ est la pierre principale qui a été rejetée. Il était la pierre principale rejetée. Il va bientôt revenir. Voyez comment cette église là-bas, à l'âge de Luther, très large en bas, et par la suite devient en minorité, un peu plus minoritaire, un peu plus jusqu'à ce qu'elle soit très peu nombreuse après avoir quitté l'âge pentecôtiste. Elle revient sur chaque pierre pour y poser le sommet. Une église qui produira Jésus, le même hier aujourd'hui, éternellement. C'est absolument parfait. Maintenant, il était le lion de la tribu de Judas. Maintenant, n'importe qui a déjà lu la Bible sait quel était le nombre de Dan ou ce que Dan, ou je veux dire ce que, oui, celui de Dan, le sien était un aigle, c'est vrai? C'était un aigle. Quelqu'un qui a lu la Bible, c'était un aigle. Or, celui de Ruben était l'homme. C'était le premier. Le plus faible du groupe. Jacob ne l'a-t-il pas dit dans Genèse 49, « Ruben, toi, mon premier-né, et les prémices de ma vigueur, comme les eaux, tu es monté sur ma couche et tu as souillé ma couche. » Il avait vécu avec la concubine de son père, voyez. C'est l'immoralité de l'être humain, voyez. Les animaux n'ont pas cette immoralité. Le lion, aucun d'eux n'a ça. Mais l'homme, il va avec la femme de son prochain, tout comme c'est la même chose. Tout est fini. Maintenant, ici, en bas, Dan était un aigle. Et ici, Ruben était la face de l'homme. Et Éphraïm est le bœuf. Maintenant, vous voyez le tableau? Éphraïm, c'est comme ça qu'il campait dans la Bible. Or, vous remarquerez que Dan est à la tête de trois tribus. Judas est à la tête de trois tribus. Ruben est à la tête de trois tribus. Et Éphraïm est à la tête de trois tribus. 3 fois 4 donne 12, 12 tribus d'Israël. Vous voyez, chacune d'elles avec sa bannière, et la bannière de Judas était un lion. La bannière de Ruben, un homme. La bannière d'Éphraïm, un bœuf. La bannière de Dan était un aigle. Maintenant, regardez ici ce que Jean a dit. Et l'un avait la face. Lisons ici maintenant, voyons si ce n'est pas la même chose qui était au ciel. Le premier était semblable à un lion, Judas. Le second était semblable à un veau. C'était un jeune bœuf. Le troisième être vivant était la face d'un homme. Et le quatrième être vivant était un aigle qui vogue. Exactement comme les tribus d'Israël qui campaient autour. Ils gardaient, ce sont des gardes terrestres du droit d'accès à l'arche. Oh, alléluia. Ne le voyez-vous pas? Ici, propitiatoire. Propitiatoire. Rien ne pouvait s'en approcher sans passer par cette tribu. Passer par quoi? Le lion. Passer par l'homme. L'intelligence de l'homme. Passer par le cheval de l'amour, comme un bœuf. Ou passer par l'aigle, la rapidité de celui-ci. Vous voyez? Le ciel, la terre, entre les deux et tout autour, vous voyez, ils étaient des gardes. Et au-dessus, il y avait la colonne de feu. Frère, rien ne pouvait toucher ce propitiatoire sans l'approche. Et la seule façon de s'en approcher, c'était à travers le sang. Aaron y entrait une fois par an avec le sang. Maintenant, vous le voyez? Bon, regardez bien. Chaque chef de trois tribus gardait le propitiatoire de l'Ancien Testament. Maintenant, l'avez-vous tous noté? En voilà une toute nouvelle, frère. Écoutez ça ensuite. On va partir. Maintenant, souvenez-vous. C'était les gardes de l'Ancien Testament. Combien l'ont déjà lu dans la Bible et savent que c'est vrai? Voyons, ce sont les gardes de l'Ancien Testament. Maintenant, nous vivons dans un autre âge. Gloire. Oh, j'aime cet âge-ci, pas vous? Maintenant, Dieu a un propitiatoire aujourd'hui qui doit être gardé. Le croyez-vous? Où se trouve le propitiatoire? Dans le cœur de l'homme. Quand est-il venu dans le cœur de l'homme? Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit, qui est Dieu, est entré dans le cœur humain. Pas vrai? Maintenant, notons ça ici. Préparez-vous à le dessiner, si vous voulez. Pentecôte. P-E-N-T. Je vais mettre Pentecôte ici. C'est le propitiatoire, le Saint-Esprit. Mettons ici, je vais vous dire pourquoi, pour rendre ça plus approprié, mettons ici la colombe, qui signifie l'oiseau. Vous voyez? Très bien. Il gardait le propitiatoire. Maintenant, Dieu a-t-il les gardes du propitiatoire aujourd'hui? Maintenant que, bon, regardez comme c'est bien dessiné. J'étais assis l'autre jour quand j'ai vu ceci. J'ai sauté de ma chaise, j'ai couru autour de la chaise encore et encore en disant gloire, 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 gloire et encore, Charlie, je vais me comporter pire que ça dans les bois parfois. Ça, Nelly, si j'agissais comme ça, vous me chasseriez de votre maison assez vite. Ah, je passais des moments glorieux. Et maintenant, regardez ce que c'était, ce que le Seigneur a fait. Maintenant, la Pentecôte, après la Pentecôte, on a écrit un livre de quoi? Des actes du Saint-Esprit. A-C-T-E-S. Pas vrai? Par quoi commencent les actes des apôtres? La première chose à faire pour entrer dans le salut? Actes 2, 38. Voilà cette dernière. Et ça fait le tour. Pas vrai? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue. Pierre se leva et leur prêcha un sermon. Ils ont dit, que pouvons-nous faire? Comment allons-nous entrer dans cela? Il a dit, acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, rappelez-vous, Dieu a des gardes pour ce propitiatoire. Quel est ce propitiatoire qu'il garde? Très bien. M-A-T-H, Matthieu, à l'est. Luc. Marc et Jean. Chacun de leurs quatre évangiles confirme le livre des actes à venir. Ils le gardent, peu importe où vous le consultez. Prenons-en juste un seul. Nous n'avons pas le temps. J'ai une vingtaine de notes ici, mais prenons-en juste une au sujet du salut. Allons-nous avoir le temps de prier? Non, il est une heure, donc je suppose que nous n'aurons pas, à moins que vous vouliez tous prier pour les malades. Bon, j'ai beaucoup de temps, voyez? Très bien. Maintenant, remarquez ceci. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Qu'est-ce que c'est? Le nombre terrestre. Les évangiles, 4. Très bien, remarquez. Maintenant, Matthieu 28, 19, 28. Maintenant, C'est à que vous, frère Trinitaire, vous référez, 28-19. Très bien. Matthieu, dans la dernière partie du chapitre, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Mais voici que vient la Pentecôte. » Et Pierre dit « Repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. » Quelque chose ne va pas ici. Matthieu, es-tu le garde de la porte est? Comment est la porte? La porte, c'est quoi? Jésus. Jésus a dit « Étroite est la porte. » Pas vrai? Est-ce que ça s'écrit? Comment ça s'écrit? D-E-T-R-O-I-T ou E-T-R-O-I-T-E. Détroit signifie eau. L'eau est à la porte. Comment y entrez-vous? Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça ouvre les portes. Et... Oh, mais frère Branham, tu as utilisé Matthieu 28-19, c'est exact. Mais Matthieu, en es-tu un gardien? Bien sûr, je le garde au complet. Maintenant, prenez Matthieu 1-18 et voyez ce qu'il y dit. Voyez s'il garde. Garde ceci. Voyez si Matthieu 1-18 garde Matthieu 1-28 et Actes 2-38. Voyez s'il le garde. Voici de quelle matière arriva la naissance de Jésus-Christ. Voici Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Essaie-t-il de dire quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ quand Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble? Lequel? Ça fait que les deux sont un. Et ceci a été, tout arrivé afin que, et voici, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Voici, l'ange du Seigneur lui apparut en songe. Vous savez, il lui a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car celle qu'elle a conçue vient du Saint-Esprit. Voyez, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Tout cela arriva afin que s'accomplit par le prophète. Voici une vierge concevra, Ésaïe 9:6. Une vierge concevra et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de... Est-ce qu'il le garde? Père, Fils, Saint-Esprit. Père, Fils et Saint-Esprit, c'est juste ceci. Les titres de ce nom seulement. Donc le garde se tient juste là pour le confirmer, vous saisissez? Oh là là! Maintenant, combien le savent? Le voici. Il est un garde. Maintenant, prenons. J'en ai un paquet d'autres comme sur le salut. Prends ces autres. Maintenant, si nous allons voir une ligne de prière dans une minute, pour une dizaine de minutes, essayons autre chose ici. Juste un instant. Prenons quelques écritures maintenant. Où ai-je écrit ça? Les voilà. Très bien. Voyons. Maintenant, si Matthieu ici va le garder pour la guérison divine. Prenez vos crayons et tout maintenant, ce avec quoi vous prenez des notes. Très bien. Voyez, si Matthieu divise, va le garder. Prenons Matthieu 10:1. Prenons et voyons si Jean, juste un ou deux, prenons-en deux. Un ou deux, que ce sont ceux-ci. Jean 14, 12 et 15, 7. Voyez s'il garde la guérison divine autour du trône de Dieu. Marc 16. Marc 11, 21 et 22. Luc 10. Et 1 à 12. Et Luc 11, 29 à 31. Parcourons-en quelques-uns. Voyons s'il garde. Voyons s'il garde le droit d'accès à la guérison divine, tout comme il garde la porte pour le baptême au nom de Jésus. Nous pouvons passer en revue chacun d'entre eux. C'est vrai. Maintenant, reprenons donc Matthieu 10:1. Revenons en arrière maintenant pour que nous allons terminer dans environ 5-10 minutes ou plus, le Seigneur le veut. Très bien. Prenons Matthieu 10. Voyons si Matthieu garde les actes des apôtres. Pensez-vous que Dieu n'avait pas mis de garde autour de sa parole? Voyez si ce bœuf, ce lion, cet homme, cet aigle ne sont pas encore à ses portes ici sur terre en ce moment. Voici les évangiles, les quatre évangiles, voyez. Et si vous remarquez, peu importe la direction qu'ils allaient droit devant. Ils ne se contredisent pas, ils se complètent, voyez. L'un va avec l'habileté de l'homme, l'autre va avec la rapidité d'un aigle, l'autre est pasteur, l'un est évangéliste pour voler comme un évangéliste, voyez? L'autre est pasteur, l'autre est costaud, l'autre est habile, voyez? Gardez de tous côtés Dieu qui garde cet évangile du Saint-Esprit. Croyez-le, frère! Très bien. Prenons maintenant Matthieu 10, 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna la puissance. Ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de force pour agir. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Oh, calmez le bébé pendant une minute maintenant. Écoutez, écoutez attentivement. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Beaucoup de pasteurs laissent les esprits impurs demeurer dans leur église. L'habillement des femmes, les pièces de théâtre, les parties de cartes, les jeux de loto. Ils dansent des soupes populaires, tout aux bontés. Chasser les esprits impurs. Et de guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez ce garde qui se tient à la porte? La garde de l'Évangile qui confirme ce livre des Actes, des apôtres, qui a été écrit. Oh, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un grand enseignant dire, un grand homme, un homme bien. Je l'ai rencontré, lui ai serré la main, un brave frère. Il a dit, mais les Actes des apôtres n'étaient pas que la charpente de l'Église. Ah, autrement dit, il avait la charpente en dehors ici, vous voyez? Alors que les Actes des apôtres étaient à l'intérieur. Et ces évangiles sont la charpente pour le maintenir ensemble et le protéger. Vous voyez comment l'esprit d'un homme peut faire n'importe quoi? J'aurais pensé la même chose si ce n'est pas de lui, vous voyez? La charpente, la Pentecôte n'était pas la charpente de l'Évangile. Les quatre évangiles sont la charpente qui supporte la Pentecôte. Après la mise en place de cette charpente, la Pentecôte a vu le jour. Pas vrai? Lequel a été écrit en premier, le livre des Actes ou celui des apôtres? Celui des apôtres. Jésus marchait en faisant des œuvres et il prédisait ce qui allait arriver. Et Matthieu, Marc, Luc et Jean, ces quatre gardes, sont venus et écrivaient tout ce qu'ils voyaient s'accomplir et en le disant tel quel, comme cela allait arriver, ce qui allait arriver. Puis tout à coup, ils l'ont encadré et le voici. Amen. Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est la charpente ou le travail de garde qui protège le temple principal, le trône, la bénédiction de la Pentecôte. Pas la dénomination pentecôtiste, frères et sœurs. Ils sont complètement à l'extérieur de toute l'affaire. Ah oui, ils en sont plus éloignés que tous les autres églises. Ils s'en sont plus loin que les luthériens en étaient. Les luthériens l'ont gardé un peu mieux qu'eux, et c'est vrai, et plus près de la vérité. Tout à fait exact, Jean. Parce que, bon, je n'ai pas vu Jésus à l'extérieur de l'église luthérienne qui essayait d'entrer, mais qui essayait parce que je pense qu'il n'a jamais été à l'intérieur pour commencer. Mais il était dans l'église pentecôtiste et il a été expulsé, c'est vrai. Maintenant, Matthieu 10, 1. Bon, allons ici dans Jean 14, 12, et voyons si Jean va confirmer et garder les précieuses choses de la Pentecôte. Dans Jean, chapitre 14 et le verset 12, Jésus parle. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Oh, frère, cette porte-là où l'aigle était assis, parce que c'est le service d'évangélisation, vous voyez, c'est comme un aigle qui vole. La rapidité, monter très haut dans le pays prophétique là-haut, vous voyez, pour voir d'avance les choses et dire les choses qui étaient, qui sont et qui vont venir. Vous voyez, assis là, le garder, il a dit les œuvres que je fais, observez l'aigle, vous voyez. Voici le lion, le serviteur. Jésus leur a donné la puissance. Il les protège cela. Il protège Actes 2, 38. Il la soutient là-haut, ce lion. Voici, venez, cette rapidité de l'Évangile avec cet aigle qui dit, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez même davantage. Voler dans le monde entier avec cela. Comme la colombe dont on a arraché la tête de son compagnon et qu'on a versé le sang sur le sol en criant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur qui purifie le lépreux. Oui. Maintenant, j'en ai un autre, là, Jean 15, 7. Allons au chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi, maintenant, et que mes paroles, pas la parole d'un séminaire, mes paroles demeurent en vous, et demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est vrai? Alors, l'Évangile est gardé juste ici. Cette bénédiction de la Pentecôte est gardée par Jean et son Évangile. Elle est gardée par Matthieu, son Évangile. Allons dans l'Évangile qui suit, Marc, chapitre 16, pour voir si Marc a gardé cette bénédiction de la Pentecôte. Marc, le chapitre 16. Maintenant, commençons, ou après on parle de la résurrection. Maintenant, lisons jusqu'à environ le verset 14 de Marc 16. Après, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur approcha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Ils n'ont pas cru ceux qui essayaient de leur dire le message. Vous voyez, c'est comme ça aujourd'hui. Les gens qui rendent témoignage du Saint-Esprit et les gens disent d'eux, c'est absurde, ils ne sont qu'une bande d'exaltés. Il leur a reproché la dureté de leur cœur, vous voyez, et leur incrédulité, eux qu'il avait connus dans sa résurrection. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. » Quoi? Prêchez. Il n'y a qu'un seul Évangile, quatre gardiens. Prêchez cet Évangile à toute la création. Maintenant, rappelez-vous, il les inclut les deux, les quatre gardiens, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voyez, prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez, vous devez passer par ce baptême-ci. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Oh, frère, croyez, s'il vous plaît. Et, conjonction pour lier le reste des phrases ensemble, et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, maintenant, voyons ce que dit le méthodiste. Si tu peux crier, vivre une bonne vie. Les baptistes disent, ayez simplement la foi et soyez baptisés. L'épiscopalien dit, tenez-vous comme un épiscopalien, comme ça, et inclinez-vous pendant la psalmodie. Le catholique dit, dites un Je vous salue Marie. Le pentecôtiste dit, adhérez à notre dénomination, soyez baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Et voilà, voyez. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Pas de Père, Fils, Saint-Esprit concernant ça. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Oh, frère. Maintenant, revenons au chapitre 11 et nous sommes sur le point de terminer. Matthieu 11 et j'ai 20 et 21. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle dans tous ceux-là. Bon, il n'y a aucun don. Ce ne soit pas Jésus qui parle, chacun d'eux. Et le lendemain, quand ils s'approchèrent de Béthanie, il eut faim, apercevant de loin un figuier, c'est là qu'il a maudit l'arbre. C'est Matthieu, j'ai 12, veuillez m'excuser, Marc 11, 21 et 22. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit. » Jésus, prenant la parole, lui dit, « Ayez foi en Dieu. » Ayez foi en Dieu, vous voyez, car je vous le dis en vérité, donc c'est à l'intérieur. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il peut avoir, il le verra s'accomplir. Oh, la porte sud est gardée par le bœuf. La porte nord est gardée par le lion. La porte nord, je veux dire la porte est, et la porte nord est gardée par l'aigle qui vole. Jean, l'évangéliste, puis le médecin de ce côté-ci, Luc, l'homme. Maintenant, voyons ce que Luc dit. Prenez Luc, le chapitre 1, je pense qu'on a pris Luc 10, 1 à 12. C'est là, c'est la commission, vous savez tous ce que c'est, mais Luc, le chapitre 10, de 1 à 12. Très bien, nous pourrions le lire en entier, mais nous n'aurons pas assez de temps pour le faire. Partez, je vais commencer au verset 3. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac. Voyez, n'y allez pas au nom d'une dénomination, allez-y comme je vous envoie. Voyez, n'y allez pas avec l'assurance que vous allez obtenir 100 000 $ de ce réveil. Autrement, n'y allez pas. Voyez, préparez vos campagnes, allez où je vous envoie. Voyez. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Ne saluez personne en chemin. Ne vous arrêtez pas pour dire, je vais aller voir comment ça se passe, comment aller directement, je vous envoie. Ne prêtez attention à personne d'autre. Dans quelque maison que vous entriez, dites que la paix soit sur cette maison. S'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reviendra, reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Restez dans cette même heure, rester dans cette maison-là plutôt, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera. Bon, toutes ces histoires à propos de ne pas manger de viande et ainsi de suite, miséricorde, vous voyez? Car l'ouvrier mérite son salaire, n'allez pas de maison en maison. Allez chez les Jones aujourd'hui pour souper, allez chez l'autre couple le lendemain et l'autre couple le jour suivant, restez à cet endroit. C'est comme lorsque je vais dans une réunion, vous savez pourquoi je reste à l'hôtel, que je reste là. C'est exactement à cet endroit que je trouve la paix, vous voyez? N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez là, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté et guérissez le malade. Guérissez le malade qui s'y trouve et dites-leur, le royaume est Dieu s'est approché de vous. Mais maintenant, laissez-moi lire le verset suivant. Mais dans quelle ville que vous entriez et l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues le même jour, nous secouons la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Maintenant, voyons voir. Même là, et la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nous, nous la secouons contre vous. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Mais je vous dis qu'en ce jour de jugement, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Oh, frère, avec cette assurance bénie. S'ils ne voient pas, ne vous reçoivent pas, allez-y, dites simplement, si vous ne voulez pas me voir, je vais secouer la poussière de mes souliers et partir. Autrement dit, je n'ai rien, j'ai appris. Si je mange quoi que ce soit, je vous paierai pour ça et continuerons. Il a dit, en vérité, et chacune des villes où ils sont allés, où ils n'ont pas été reçus, chacune d'elles a coulé et n'existe plus aujourd'hui. Et toutes les villes qui les ont reçues existent encore jusqu'à ce jour, voilà. Maintenant, un dernier, puis nous terminons. Voyons voir, nous avons 10, 11, 29 à 31. Luc 11, 29 à 31, puis nous allons terminer. Oh, j'aime cela. Comme le peuple s'amassait en foule, voyons voir, est-ce que j'ai, est-ce Luc, Luc 11, 29? Oui, je pense que c'est bien ça, oui. Comme le peuple s'amassait en foule et se mit à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas le prophète. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même aussi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire maintenant? En terminant, je vais devoir laisser faire le reste. Mais en terminant, je vais dire ceci parce que je vous ai gardé si longtemps. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il viendra un jour où une génération méchante et adultère, souvenez-vous maintenant, cherchera un signe. Et celle-ci est une génération méchante et adultère. Et il a dit, cette génération recevra un signe. Regardez comme ça s'aligne avec le reste de la Bible, le signe de Jonas. Jonas a été dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits. De même, le Fils de l'homme a été dans le ventre de la baleine de la terre 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce que ça sera? Le signe de la résurrection. Voyez, le signe de la résurrection se fera dans une génération méchante et adultère, et cela s'est fait dans le livre des Actes. Jésus est ressuscité des morts, est venu vers Pierre, Jacques et Jean, et les apôtres. Ils ont écrit ce livre des Actes. Ce n'étaient pas les Actes des apôtres. C'était les actes du Saint-Esprit œuvrant dans les apôtres. Ce n'est pas un homme aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit œuvrant à travers un homme ou des hommes qui fait l'œuvre. Ce n'est pas l'homme, l'homme n'est qu'un vase, mais le Saint-Esprit est l'huile qui est dans ce vase, voyez? Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez les signes qu'ils ont fait comme Jésus. Ils ont été forcés de le reconnaître parce qu'ils étaient ignorants sans instruction, Pierre et Jean. Mais ils ont été forcés de reconnaître qu'ils avaient été avec Jésus. Ils ont fait les choses qu'il avait faites. voyez, chacun livre de la Bible, les quatre livres, les quatre évangiles gardent la bénédiction de la Pentecôte avec chaque écriture pour confirmer exactement ce qu'ils disent. Et maintenant, les actes des apôtres confirment aujourd'hui avec les quatre évangiles que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'aimez-vous? Ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de force pour agir. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Laissez-moi chanter. Ils étaient tous dans la chambre haute et priaient en son nom. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et de force pour agir. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Ce qu'il fit pour eux ce jour-là, il le fera pour toi. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Bien qu'ils ne soient peut-être pas instruits, pas tout comme Pierre, Jacques et Jean, ils ne soient pas célèbres dans le monde. Ils ont tous reçu leur Pentecôte, baptisés en son nom. Et ils proclament partout dans le monde que sa puissance demeure pareille, exactement comme elle l'a toujours été. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Oh, je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Viens chercher, mon frère, ce bienfait qui purifie le cœur. Toutes les cloches carillonneront et ton âme sera enflammée. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. Oh, à son nom, la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux. L'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Ça séduit beaucoup de ces gens. Ils sont beaucoup de ces gens dans la rue qui vont à l'église, appartiennent à des églises. Ils sont séduits comme Ève. Elle a été au commencement. Ils ne connaissent pas mieux. Oh, venez goûter à l'arbre de vie. Maintenant, au lieu des chérubins, maintenant je veux dire quelque chose. Au lieu de ces chérubins qui gardent ce trône, ils sont ici en train de chercher. Ils essaient de diriger les gens, de les garder au trône. Ils essaient de les faire passer la porte pour retourner à l'arbre de vie, pour qu'ils puissent prendre ceci. Jésus a dit, « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est vrai. Oh, je suis si heureux. Combien y a-t-il de malades dans la salle? Faites voir vos mains. Levez la main. Très bien. Combien ont... Est-ce que j'ai bien compris, Billy? Où est-il? Est-ce qu'il a distribué des cartes de prière? Oui. Très bien. Qui a? Maintenant, regardez par ici, vous tous. Maintenant, c'est tout à fait comme ça lorsque ça entre sous la gloire ici. Voyez, elle vient. C'est la lumière juste ici. Vous bougez ici, vous voyez. Bon, regardez, c'est juste un reflet. Juste un reflet, c'est ça, voyez. Ce n'est pas la lumière. Voici la lumière au-dessus, juste ici. Regardez juste ici, sur cette femme. Je l'ai vue simplement et j'ai cru qu'elle était au-dessus de quelqu'un. Maintenant, vous en voyez une et moi, j'en vois deux. L'une d'elles est la naturelle et l'autre est la surnaturelle. Il y a un homme assis au bout de la rangée ici, le long de cette ligne, qui regarde vers cette lumière. Ça l'a frappé. Il vient de Seymour en Indiana et il a une attaque. Si vous croyez, monsieur, Dieu vous guérira de cette attaque. Amen. Croyez maintenant. Croyez-vous tout votre cœur? Alors, c'est le Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, mais laisse-vous faire quelque chose pour vous prouver que c'est Dieu, alors croirez-vous de tout votre cœur? Alors, votre condition est une condition nerveuse causée par une ménopause. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? N'êtes pas d'ici non plus. Quel est votre problème? Et en faisant cela, qu'il va vous guérir? Pourrait vous guérir parce que ce n'est pas pour vous que vous désirez qu'il soit guéri, c'est votre fils, voyez? Il est en Virginie. Qu'avoue que je puisse vous dire que ce qui ne va pas avec lui, par l'aide de Dieu, il a des ulcères, c'est vrai. Il y a autre chose qui ne va pas avec lui. Il n'est pas sauvé. Vous priez pour lui maintenant, Madame Baker. Retournez à Somerset et croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ va le guérir. Vous guérit. L'acceptez-vous comme votre guérisseur? Si vous pouviez, guérisseur. Paul a dit une fois, « Cet auditoire qui a écouté attentivement jusqu'à tard dans la journée, Seigneur. Maintenant, Seigneur Dieu, je prie que ta miséricorde et ta bonté reposent sur eux. Satan, je te défie au nom de Jésus-Christ. Sors de ces gens qui sont restés pour écouter l'Évangile. Tu ne peux plus les retenir. Que la puissance du diable qui a lié ces gens les quitte. »